Alanis Morissette, une Invited sur BG Radio, il est 9h.
Votre radio, BG Radio.
Heures, 11h, entre nous, Sandrine Donzel sur BG Radio.
Bonjour à tous et bienvenue dans Entre nous que je vais animer aujourd'hui avec Olivier.
Bonjour, bonjour Sandrine.
Bon, je suis un petit peu stressée
d'être
là.
Oui, mais ça va aller. Alors, est-ce que tu veux que je parle un petit peu avec toi au début?
Pour m'aider un peu. Mais tu vois, ça tombe bien. On va parler d'émotions aujourd'hui.
Voilà, il y aura plein d'émotions. Alors, quel est le thème de cette émission?
Eh ben, justement, ce sont les émotions. Donc, l'émission en général, elle va parler de tout ce qui nous concerne au quotidien.
D'accord.
Toutes les relations qu'on peut avoir avec soi-même, avec les autres, que ce soit dans la famille, dans le couple, au travail. Toutes ces situation où on se dit mais je pourrais peut-être faire autrement, je pourrais peut-être faire mieux, je comprends pas ce qui se passe, voilà. On va essayer d'y répondre de façon claire, concrète, simple, sans tomber dans la
précise
théorie.
Précise mais simple, on va dire.
Voilà, c'est ça. Pratique, pragmatique, réaliste.
Et donc les auditeurs vont pouvoir réagir en direct, alors soit sur la page Facebook, c'est ça ?
Ouais.
Soit par téléphone au 04 57 29 04 18. On va y arriver, mais tu vas le connaître.
Heureusement que tu connais le téléphone mieux que moi.
Tu vas le connaître. T'inquiète pas,
je
ça
vais
va venir
prendre par
à force.
Cœur.
Et également par email à contact@bugeradio.fr.
Exact. Sur la page de la radio. De préférence sur la page de la radio.
C'est plus pratique sur Facebook.
C'est là que je suis connectée.
Voilà.
Mais pour ceux qui veulent rester anonymes, il y a le mail. Et le téléphone, je sais que c'est toujours un petit peu stressant. Donc voilà.
Ah, c'est un petit peu plus stressant.
Ouais.
Mais bon, il faut essayer, il faut tenter le coup. De toute façon, on est entre nous, justement, c'est le thème de cette émission.
Exactement.
Et c'est le titre de cette émission. Alors, est-ce que tu peux un petit peu te présenter déjà, comme ça, pour nos auditeurs?
Oui, donc moi je m'appelle Sandrine Donzel. Je suis spécialisée dans l'efficacité relationnelle. Et je me suis rendu compte, j'anime beaucoup de rencontres, notamment entre parents, mais aussi sur d'autres thèmes, le couple, le stress, enfin, des tas de choses comme ça. Et je me suis rendu compte qu'il y avait un vrai besoin d'aller vers des choses plus concrètes et plus pragmatiques autour de la psychologie. Et voilà pourquoi j'ai eu envie de proposer cette émission à BG Radio.
D'accord.
Tout simplement.
Et c'est comme ça que c'est venu.
C'est comme ça que c'est venu.
T'es arrivé ici et voilà où on en est.
J'ai dit bonjour Olivier,
voilà.
Est-ce que tu m'acceptes comme collaboratrice? Et tu m'as dit bah oui, pas de problème. Donc voilà, je suis là.
Et comme nouvelle animatrice maintenant du Géo Radio. Dans l'émission Entre nous, partagez vous-même vos émotions en direct si vous le voulez au 04 57 29 04 18 ou par email contact@bugeradio.fr. Je le répéterai jamais assez, le Facebook, facebook.com/bugeradio. On va passer à la musique, une petite musique de détente, et puis, enfin, c'est pas de la musique de détente, mais ça va, on va le prendre comme ça.
Pour se déstresser un petit peu.
Pour que tu te déstresses, moi aussi, et tout le monde, voilà.
Ok, à tout de suite.
À tout de suite.
Votre radio, vos émotions.
UG Radio.
Via, via, vieni via di qui. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful. It's wonderful, it's wonderful.
Paolo Conte, Via Con Mi sur BG Radio. Il est 9h et 6 minutes. Sandrine Donzel, tout de suite.
Et voilà, il y a encore à moi de parler.
BG Radio.
Eh bien, bienvenue à nouveau dans Entre nous. Donc ce qu'on était en train de dire, c'est que l'émission, elle était prévue pour être à l'écoute de ses auditeurs et pour répondre à leurs questions.
Voilà, c'est ça.
Donc vraiment, on vous invite...
Une totale interactivité entre les auditeurs et nous. Et les auditrices, bien sûr.
Et
moi,
les
je dis les auditeurs
aussi,
sans arrêt.
Enfin,
mais... je comprends tout le monde, bien évidemment, dedans.
Mais vraiment, l'idée, c'est que vous puissiez poser vos questions et qu'on puisse y répondre.
Ouais.
Que les auditeurs aussi, et les auditrices, donc, puissent nous faire part de leurs envies sur peut-être des thèmes pour les prochaines émissions, des invités qu'ils auraient envie de voir et
oui,
avec
aussi,
qui on pourrait discuter.
Parce qu'on va recevoir
échanger.
Des invités, c'est ça?
Eh ben, ça serait chouette, ouais. Moi, j'ai déjà quelques idées.
T'as déjà des idées là-dessus?
Ben oui, mais okay. Je les garde pour moi, c'est une surprise. C'est
d'accord.
Pour ménager le suspense. Donc...
Okay.
Voilà pour ce qui est des émissions en général, mais peut-être qu'on va rentrer dans le thème de celle d'aujourd'hui.
Eh ben, on va rentrer dans le thème, il n'y a pas de problème.
Alors, les émotions.
Les émotions, oh là là, c'est large.
Oui, c'est super large. Mais bon, je me suis dit que justement pour la première, c'était chouette parce que c'est un thème dont tout le monde parle, dont tout le monde a entendu parler au moins une fois, qui est un peu à la mode, il faut bien reconnaître ce qui est. Alors qui est à la mode, je ne sais pas si on peut dire à la mode, mais qui en tout cas, c'est un sujet qui paradoxalement dans la psychologie a été assez peu étudié jusqu'à maintenant. Ce qui fait qu'aujourd'hui on commence à s'y intéresser parce qu'on se rend compte que c'est quand même quelque chose de central et de super intéressant. Et c'est pour ça qu'il y a un peu cet effet de mode, parce que comme on commence à s'y intéresser, bah on publie des études, on commence à écrire des articles et à voir les choses autrement. Les émotions, c'est un peu embarrassant en général. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, Olivier.
Mais... c'est embarrassant. Oui, ça dépend quelles émotions, justement. Bah, si on est entre nous, on va dire dans un couple ou quoi, c'est. Oui, ça peut être aussi embarrassant quand même, finalement. C'est vrai.
Ça peut être embarrassant tout le temps.
C'est vrai.
Les nôtres peuvent être embarrassantes. Oui. Parce que du coup, elles nous amènent à faire ou à dire des choses. On n'aurait pas forcément eu envie de faire ou de dire des choses comme ça. Ouais. On peut être embarrassé par les émotions des autres. Moi, j'accompagne beaucoup de parents, et c'est vrai que quand nos enfants se mettent à se rouler par terre dans les magasins, on est un petit peu embarrassé.
C'est des émotions, ça.
Oui, c'est des émotions, mais j'y reviendrai tout à l'heure. J'expliquerai un petit peu comment ça se passe. Donc voilà, c'est un peu un truc. On comprend pas trop bien comment ça marche. Ça nous amène à faire des trucs qu'on n'avait pas spécialement envie de faire, si on y réfléchit bien, un peu intellectuellement. Et du coup, souvent, on a besoin d'aller un peu plus dans le détail pour savoir qu'est-ce que c'est qu'une émotion. Donc, c'est à toutes ces questions-là qu'on va répondre. Qu'est-ce que c'est qu'une émotion? Comment est-ce qu'on le gère? Qu'est-ce qu'on peut faire face à l'émotion de quelqu'un d'autre? Enfin, voilà, toutes ces questions-là.
D'accord.
Non, bah, oui, ça t'intéresse.
C'est un vaste sujet, ça m'intéresse beaucoup, oui, mais énormément. C'est bon en radio aussi, ça, c'est très important, parce que quand on a quelqu'un en face de soi à l'antenne, c'est pas facile. À l'antenne, il faut paraître vraiment sobre, on va dire. Et puis, en fait, s'il y a des complications en antenne, c'est possible aussi certaines fois.
Exactement.
Donc du coup, on sait pas. Bon, pas avec toi pour l'instant, ça va.
Ça va. Mais c'est vrai que les émotions, en fait, j'ai travaillé en entreprise pendant une quinzaine d'années. Je suis ingénieure en mécanique à la base, donc pas grand-chose à voir avec ce que je fais aujourd'hui.
Et moi, à la base, j'étais chauffagiste, donc tu vois, ça n'a rien à voir.
Bienvenue au club des gens qui font complètement autre chose.
Exactement.
Donc les émotions en entreprise, par exemple, dans le domaine du professionnel, c'est souvent quelque chose qui est très mal vu.
C'est mal vu, ça dépend pourquoi, peut-être. Mais... parce que des émotions personnelles, c'est sûr, mais... ah oui, quoique les émotions au travail, non, je dis des bêtises aussi, c'est vrai.
Mais tu vois...
ça peut être très mal vu.
Mais oui, parce que justement, ça nous amène parfois à avoir des réactions qui paraissent complètement irrationnelles de prime abord. Et donc, du coup, au travail, on essaye de chasser complètement l'émotionnel. Ouais. Et on va voir que c'est un petit peu compliqué de faire ça, quoi.
Et c'est dommage, surtout.
Ben oui, c'est dommage. Nous sommes d'accord. Et je vais aussi rentrer dans le sujet au cours de l'émission pour revenir là-dessus, sur le fait qu'effectivement, c'est un petit peu dommage de faire une croix sur une part de nous qui est utile et importante. On y va, d'ailleurs. On explique ça.
À quoi ça sert, une émotion? On peut l'expliquer. Allez, c'est parti.
Ben alors, allons-y. Comment... j'ai envie de te poser une question. Comment est-ce que tu sais que tu ressens une émotion, toi?
Alors, comment est-ce que je sais que je ressens une émotion? C'est un petit peu compliqué, ça. Alors, oui, c'est bizarre, parce que ça peut être soit physique, soit intellectuel, moral. Physique, ça peut l'être, une émotion très forte, mais qu'on n'arrive pas à expliquer, ou que personne nous parle, mais par contre, on ressent une émotion. Alors là, on peut le ressentir par des frissons, des choses comme ça. Après, c'est vrai que, une émotion, je peux la ressentir dans la façon de parler avec quelqu'un, je peux ressentir tout ça. Ou dans la voix aussi, dans la voix des gens, peut-être, non?
Exactement.
Ah, je me trompe pas!
Non! T'as tout juste, Olivier! Génial! Donc, t'as identifié la première façon qu'on a de percevoir une émotion, qui est la partie physique, les modifications physiologiques.
Ah, ça, c'est la première partie, ça, c'est...
c'est la première. Je sais pas si c'est dans l'ordre, il n'y a pas vraiment d'ordre. D'accord. Tu vas voir après, je vais expliquer un petit peu plus en détail. Il n'y a pas vraiment d'ordre par rapport à ça. Mais une émotion, on la perçoit, notamment au travers des manifestations physiques. Donc, on peut avoir des frissons, on peut avoir le cœur qui bat plus vite, la respiration qui s'accélère, on peut transpirer.
Rougir. Il y a des gens comme ça aussi, c'est vrai.
Il y a plein d'émotions qui déclenchent un peu de transpiration excessive. C'est d'ailleurs un problème pour certaines personnes.
Oui, parce que souvent, alors la transpiration, c'est pas très agréable pour tout le monde, ni pour la personne, ni pour les autres.
Mais il y a des gens qui souffrent de ça, c'est-à-dire que dès qu'ils sont sous le coup d'une émotion, ils se mettent à transpirer énormément. Et alors quand on se retrouve avec sa chemise, ses vêtements trempés et tout, c'est un vrai handicap social. Et je parle pas évidemment de tous les autres inconvénients. Donc il y a tous ces aspects physiques qui en fait viennent du fait qu'il y a des modifications physiologiques, c'est-à-dire qu'il y a certaines hormones qui sont sécrétées un peu plus, un peu moins, notamment l'adrénaline.
Ah oui.
Tu vois, ou l'endorphine. Alors l'adrénaline, c'est ça qui fait accélérer le cœur, par exemple, qui fait qu'on a la respiration qui s'accélère. Ouais. L'endorphine, par exemple, est-ce que tu sais à quoi ça sert l'endorphine ?
Alors l'endorphine, non, je connais l'adrénaline, je sais à quoi ça sert exactement. Tu viens de l'expliquer en plus de ça, mais l'endorphine, non, je ne sais pas.
Eh ben l'endorphine.
Endorphine, endormir, non ?
Ouais, c'est ça, ça. Ça diminue les sensations de douleur.
Ah d'accord.
Et donc c'est très utile parce que par exemple, si tu es en situation de danger et que tu dois fuir très vite. Si tu as moins mal, tu peux courir plus vite, plus longtemps, marcher sur des cailloux pointus et ne pas sentir que fait mal.
Moi, j'ai une question, et je sais pas si t'as déjà entendu parler de ça, des mamans, apparemment, qui aurait porté, soulevé une voiture parce que son fils était dessous. Est-ce que c'était vrai? Pas vrai? Je sais pas. Ah. En tout cas, est-ce que ça, là, on parlait d'adrénaline dans cet article-là que j'avais lu, est-ce que c'est l'adrénaline ou l'endorphine, du coup? Parce qu'on sent pas la sensation dans ce cas-là. Ça fait partie de l'endorphine, non ?
C'est une combinaison des deux, en fait.
Ah, d'accord.
C'est-à-dire qu'on peut pas... Alors, je sais pas si cette histoire est vraie ou pas vraie.
Vrai que c'est un peu compliqué de le savoir. Mais...
Je pense qu'il y a des choses qui sont tout à fait possibles, effectivement, et qu'on peut complètement dépasser ses limites sous le coup d'une émotion extrêmement forte. Ah, indubitablement. J'ai pas de doute là-dessus.
Mais c'est assez impressionnant. On se rend pas compte comme ça.
C'est ça. J'avais assisté à une conférence de Paul-Émile Victor et il disait de Jean-Louis Etienne, pardon. Et il disait quelque chose de très très beau. Il disait, on ne dépasse pas ses limites, on les découvre.
Ah oui, d'accord.
C'est-à-dire qu'on
des limites.
On est capable de faire beaucoup plus de choses que ce qu'on croit.
Oui, c'est un petit peu contradictoire ce que je viens de dire. On a des limites infinies, des limites sans limite, quoi.
Mais c'est ça. Voilà. Alors, je ne sais pas s'il y en a pas, mais en tout cas, elles sont plus loin que ce qu'on croit. Donc, ça, c'est les manifestations physiques. C'est effectivement généralement par là qu'on perçoit nos émotions en général.
D'accord.
Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ces manifestations physiques, les hormones et tout ça, ça peut accélérer certaines fonctions du corps et en ralentir d'autres. Parce que du coup, le corps donne la priorité aux fonctions qui vont lui être utiles dans la situation qu'il perçoit. Donc par exemple, dans les situations très émotionnelles, on va avoir une diminution des fonctions de digestion.
Oui.
La libido au sens large, c'est-à-dire pas que la partie sexuelle, mais aussi l'envie, l'appétit, etc., parce qu'on se concentre sur quelque chose de primordial qui est la situation qui déclenche notre émotion.
D'accord.
Donc voilà pour la partie physique. Et après, tu m'as dit, il y a aussi psychique.
Oui, psychique, ouais.
Le discours intérieur.
La partie mentale, quoi.
Voilà, c'est ça. Parfois, on se rend compte qu'on est sous le coup d'une émotion parce qu'on est en train de penser des trucs. Par exemple, quand on commence à avoir peur, on commence à se dire « je suis nul, je vais jamais y arriver ».
Oui, on doute facilement. Ouais.
Voilà. Les manifestations physiques influent sur notre discours mental, notre discours interne. Et notre discours interne peut influer sur nos manifestations physiques.
D'accord.
C'est-à-dire qu'on peut aggraver les manifestations physiques. Si, par exemple, je commence à faire une crise d'angoisse, j'ai l'impression que ma poitrine se serre.
Oui, c'est vrai.
Que j'ai du mal à respirer. Si je commence à me dire, mon Dieu, c'est terrible.
Si on se calme dans la tête, ça calme le reste, en fait.
Voilà. Et vice versa.
Comment ça?
Eh ben, c'est-à-dire que, tu vois.
Comment on peut calmer le reste, les émotions physiques?
Par exemple, tu as un outil qui est génial pour ça, c'est la sophrologie.
D'accord.
Qui permet de reprendre sensations plus justes de son corps et donc d'apaiser ce genre de choses.
En gros, de reprendre confiance en soi pour être plus à même de réagir correctement face à son corps.
Exactement. Donc, tu vois, tu peux jouer l'un sur l'autre. Mais c'est pas tout. Il y a des choses que tu n'as pas citées dans la façon dont on perçoit les émotions.
Ah bon ? Et c'est quelque chose là, je me demande.
La partie comportementale, par exemple.
Comportementale.
Parce que l'émotion m'amène à faire des choses.
Oui.
Donc je pense des choses, je ressens des choses, mais je fais des choses, je dis des choses. Des fois, quand tu es en colère, tu dis des trucs qui dépassent complètement ta pensée.
Oui. Oui, mais alors là, c'est pareil. Est-ce que, je sais pas, je parle je connais pas du tout, et je suis plutôt naïf sur cette question, moi, je peux croire un peu n'importe quoi sur le coup, mais est-ce que c'est cette façon-là de se dire, voilà, on est... mince, comment j'arrive pas à m'exprimer, c'est pas trop facile là, on va dire. Aide-moi.
Non, mais je sais pas, j'étais en train de te demander...
Mais oui, en fait, c'est on réagit bêtement, on va dire, des fois... mais est-ce que c'est pas quand même le fond de nos pensées, de notre pensée?
Bêtement?
Oui.
Non.
Bêtement, méchamment.
Non, spontanément.
Spontanément, voilà. Mais est-ce que c'est quand même pas une arrière-pensée qu'on aurait eue quelques secondes avant ou voire beaucoup avant?
C'est un message qui traduit notre émotion.
Ouais.
Par exemple, je vais te donner un exemple avec les enfants parce que c'est plus parlant.
Ouais.
Un enfant à qui sa maman dit, maintenant, tu vas prendre ton bain. Et il dit non, t'es méchante.
Oui.
C'est pas vraiment ça qu'il pense.
Oui, c'est vrai en même temps. Oui.
Ce qu'il pense, c'est tu m'embêtes avec ton bain.
Et oui, voilà, oui, c'est la parole qui est différente en fait, c'est tout.
C'est ça. Mais du coup, et on y reviendra quand on parlera de la colère tout à l'heure. La violence,
oui.
C'est tout relatif, hein, mais verbal, c'est souvent juste une colère qui a du mal à se faire entendre.
Oui.
Et donc, on va un peu trop loin dans les paroles.
D'accord.
Parce qu'on insiste pour dire, c'est bon, j'ai pas envie d'y aller, là.
D'accord. Mais par contre, des fois, ça peut effectivement sortir quelques émotions passées, quelques sentiments personnels
oui,
bien
peut.
Ancrés.
Bien sûr que ça peut.
Et est-ce qu'on peut le découvrir, ça ? Est-ce qu'on peut s'en rendre compte quand on est à l'extérieur, même ?
On peut s'en rendre compte soi-même, c'est-à-dire à un moment donné se poser la question, est-ce que c'est vraiment ça la relation que j'ai envie d'avoir avec cette personne ?
D'accord, ah oui.
Tu vois,
ça peut poser plein de questions, c'est vrai.
Tu commences à balancer des trucs pas très agréables à ta compagne. À un moment donné, tu vas te dire, est-ce que c'est vraiment ça la relation que j'ai envie d'être avec elle ? Et quand je lui dis ça, c'est quoi mon objectif ? Mais on y reviendra tout à l'heure parce qu'on va voir à quoi ça sert une émotion.
Ok. Moi, j'ai une petite, j'ai quelques petits sujets proposés par des auditeurs qui nous envoient des emails et peut-être même sur Facebook.
J'envoie un sur Facebook, effectivement aussi.
Alors, si vous pouvez, Marie-Pierre. Marie-Pierre qui nous envoie un message en précisant jalousie entre frères.
Ah.
Est-ce que ça, on va pouvoir en parler tout à l'heure ?
On pourra en parler, oui.
Alors, est-ce que je te lis le texte maintenant qu'elle nous envoie ?
Je vais le noter et puis on...
Ben, il est très très long.
Alors, il faudra que tu... alors lis-le.
Je te le dirai en antenne, il n'y a pas de problème, mais là, je vais te le lire. Alors, elle nous envoie, Marie-Pierre, j'aime beaucoup votre blog, donc voilà, alors là, c'est la petite précision personnelle.
Merci.
Et je suis ravie que vous fassiez une émission. J'ai apprécié aussi que vous fassiez un rappel, car prise par le flot des choses du quotidien, je serai sûrement passé à côté. N'hésitez pas à faire des piqûres de rappel à chaque fois, je vous souhaite le meilleur. Voilà, donc ça c'est sympa.
Donc ça c'est la vie de maman, ça.
Alors voilà, et ensuite, donc il y a la question. Mon aîné est très jaloux du second, je le vois parfois en arrivant dans la pièce où il joue, faire mal intentionnellement, je vais y arriver, à son frère et me dire je n'ai pas fait exprès, je ne sais, alors j'arrive pas à le voir parce que c'est tout petit, je ne sais pas trop comment réagir quand le grand fait mal au petit, merci de m'aider, au plaisir de vous écouter.
Ok, voilà. Ouais, on en reparlera tout à l'heure, je le note dans un coin de ma tête. Souvent,
partie de cette émission quand même.
Oui, voilà. Alors on va pas rentrer non plus dans le détail des relations frères-sœurs, mais on va pouvoir l'aborder un petit peu. Simplement, j'attire votre attention à tous et ton attention à toi aussi,
oui.
Olivier.
Allez, j'écoute.
Sur le fait qu'il y a des émotions et il y a des sentiments.
D'accord.
Et qu'il y a des interprétations. C'est-à-dire qu'on voit un certain nombre de comportements et qu'on en tire des conclusions. Et qu'on voit, par exemple, un garçon taper sur son frère et qu'on en déduit qu'il est jaloux, alors que peut-être simplement, il ne sait pas comment gérer le conflit ou que... Enfin voilà,
d'accord,
il faut regarder les choses d'un point de vue un petit peu plus large que juste ça. Mais on y reviendra tout à l'heure.
D'accord, très bien.
Il y a deux trucs que j'ai pas dit encore sur qu'est-ce que c'est qu'une émotion. Donc il y a la partie psychique, la partie comportementale, la partie physique, et il y a une partie qui est très peu connue, c'est la partie cognitive. Alors là, ne me regarde pas, il est gros yeux comme ça.
Donc, je ne comprends rien du tout.
Je vais te donner un exemple très concret. Les gens qui sont phobiques des araignées.
Ah oui.
Alors, par exemple,
ça me dérange pas du tout, c'est les rats et les souris. Moi.
Ok.
Voilà.
Quand on a une phobie comme ça, quand on rentre dans une pièce, je parle des phobies des araignées parce que c'est un sujet que je connais bien parce que j'ai accompagné des gens, qu'est-ce qu'ils font ? Inconsciemment, involontairement, ils regardent en haut les coins du plafond.
Et oui, moi je fais pareil pour les rats et les souris, je tape un peu par terre et tout, je marche plus fort, on va dire.
Voilà. Donc tu vois, marcher plus fort, ça c'est une partie comportementale. Mais ton regard va inconsciemment se poser, enfin involontairement, se poser dans les coins où éventuellement il pourrait y avoir des souris.
Ouais.
Ça c'est une hyperfocalisation, c'est-à-dire que l'émotion fait que, comme t'as peur, tu essayes de voir s'il y a pas de souris.
Et oui, et justement maintenant j'évite de faire ça.
Oui,
parce que j'ai remarqué que j'étais encore plus mal.
Mais oui, parce que t'en vois encore plus.
Ouais, c'est ça en fait, c'est clair.
Parce que
d'habitude les gens n'en verraient pas à cet endroit-là, et moi
c'est
je les
ça,
vois.
C'est ça. C'est ça. Et les phobiques des araignées, c'est pareil. Ils regardent dans les coins.
Ouais.
Et du coup, ils voient beaucoup plus d'araignées
que
toi et moi qui ne sommes pas phobiques
d'accord.
des araignées.
Bon, ben.
Et du coup, ils se renforcent dans le fait qu'ils ont bien raison d'avoir peur puisqu'il y en a de partout.
D'accord.
Tu vois ?
Pris par son propre sort et jeu.
Exactement. Et donc tu as constaté par toi-même ce que tu as dit. Je trouve que c'est tout à fait révélateur de ce que je voulais dire justement maintenant. C'est que, comme on a vu tout à l'heure que le physique pouvait influencer le psychique, le cognitif aussi peut influencer le psychique et le physique, et le comportemental aussi.
D'accord.
Donc tous ces paramètres s'influencent les uns les autres. Donc l'émotion, c'est d'abord et avant tout un processus. C'est ça qui fait que c'est si difficile à définir, mm-hmm. parce que c'est pas un truc, voilà, qu'on peut clairement mm-hmm. identifier. C'est un ensemble de facteurs qui s'influencent les uns les autres.
Okay.
Donc voilà.
D'accord. Ça, c'est vrai. Franchement, c'est impressionnant pour moi.
Voilà, t'as découvert plein de trucs.
Je savais pas du tout. Voilà.
J'espère que vous aussi, derrière votre ordinateur. Donc, je mettrai sur la page Facebook de la radio des petits schémas explicatifs qui correspondent à ça, mais je ferai ça pendant les plages musicales.
Ça, c'est une super idée. On le fera tout à l'heure dans un petit moment.
Exactement.
Est-ce qu'on parle d'autre chose ou est-ce que tu veux te détendre 30 secondes? Comme tu veux.
On pourrait juste, en deux secondes, faire le lien avec le stress.
Allez, avec le stress. Ah, oui.
Qu'est-ce que c'est le stress?
Je ne sais pas. C'est, en gros, c'est tout, pour moi, c'est tout et n'importe quoi, parce que ça peut m'arriver à n'importe quel moment et par n'importe quelle chose.
C'est ça. En fait, moi, je trouve qu'il y a un lien très facile et très pratique à faire avec les émotions. C'est-à-dire que le stress, c'est justement ça. C'est-à-dire c'est les émotions qu'on ressent et qui peuvent, par moments, devenir handicapantes, gênantes. Et c'est là où on commence à être stressé.
D'accord.
Après, il y a des différences de stress aigu et de stress chronique.
D'accord.
Le stress aigu, c'est on vit un événement où on ressent une émotion très très forte et après on peut passer à autre chose ou pas, parce que parfois il y a ce qu'on appelle les syndromes de stress post-traumatique. Oui. On n'en parlera peut-être pas aujourd'hui, sauf si quelqu'un veut poser des questions par rapport à ça. Et puis le stress chronique, c'est quand on a sans arrêt des situations émotionnelles qui se répètent. C'est-à-dire que quand on dit souvent qu'on a beaucoup de stress, c'est qu'en général il y a soit beaucoup de peur, soit beaucoup de colère, mais qu'on ne peut pas exprimer.
D'accord.
Et donc ça fait un peu effet cocotte-minute, et c'est ça qui fait qu'on a cette sensation d'être tout le temps en tension.
Et voilà, on a l'impression qu'on va exploser justement la cocotte-minute, je comprends bien, d'accord.
Donc voilà, moi je propose qu'on se retrouve après.
On va se retrouver dans un petit moment, alors juste pour vous rappeler les coordonnées de la radio pour pouvoir nous contacter en direct et réagir, surtout participer en direct avec Sandrine, ou avec moi comme vous voulez, ça ne me dérange pas du tout. Mais de préférence avec Sandrine, c'est son émission, c'est l'émission Entre nous, les émotions sont à l'honneur aujourd'hui. Le numéro de téléphone, c'est le 04 57 29 04 18. Je répète, 04 57 29 04 18. L'email, c'est contact@bugeradio.fr. Et bien sûr, vous pouvez réagir sur la page Facebook, ce qui nous arrange bien justement. On peut réagir en direct comme ça avec vous. C'est facebook.com/bugeradio tout simplement. La musique, c'est Renan Luce et Chris Isaac. Je crois que ça, c'est un truc qui est bien sympa aussi.
Oui, ouais, j'aime
moi j'aime bien. J'aime beaucoup.
J'aime bien les deux. Alors vas-y, envoie.
J'aime bien les deux. Alors attention, Renan Luce, c'est Repenti.
Mais ça me semble.
C'est un peu tristouné, mais par contre, c'est beau, je trouve. Et ça parle un petit peu de choses italiennes. Ça me plaît. Ça, c'est mes origines aussi. Allez, merci, à tout de suite. Il est 9h25. Restez bien avec nous sur Bugey Radio.
Votre radio, Bugey Radio.
Chris Isaac, Wake Games, je sais pas si je le dis bien, mais en tout cas, il est toujours, il est toujours temps de parler de l'émission Entre nous avec Sandrine Donzel sur Bugey Radio. C'est tout de suite.
C'est reparti pour un tour. J'ai vu qu'il y avait pas mal de questions qui arrivaient sur la page Facebook.
Oui, on a pas mal de petites questions. Ouais.
Donc c'est chouette. Je ne sais pas si je vais pouvoir répondre à tout, mais je suis ravie en tout cas que vous posiez toutes ces questions et que vous vous intéressiez à l'émission. Merci beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on disait ? On avait dit que l'émotion, ça se percevait au travers d'un ensemble de choses qui étaient physiques, comportementales, psychiques et cognitives. Tu te souviens ce que ça veut dire, cognitive ?
Alors oui, je sais à quoi ça correspond, on va dire, mais la définition exacte, je ne peux pas te la donner.
Cognitif, ça vient de connaissance, c'est-à-dire la façon dont on perçoit les choses.
D'accord.
Donc voilà, nos sens en fait.
Les sens, d'accord.
Tu vois ?
Ok.
Pour résumer, en gros.
Pas le sang plomb,
la façon dont on prend connaissance du monde.
Très bien.
C'est plus clair comme ça.
Ouais, c'est plus clair pour moi.
Ok. J'avais parlé aussi un petit peu du lien entre stress et émotion.
Oui.
Et le fait que, effectivement, surtout au milieu professionnel, on avait tendance à vouloir chasser les émotions et que c'était bien dommage. Mais on va y venir justement maintenant. Que le stress, l'état de stress global, c'est plus une accumulation d'émotions qui fait que, au bout d'un moment, on n'y arrive plus, on n'arrive plus à tout gérer. Donc c'est intéressant du coup de regarder un peu ce qui se passe au niveau des émotions si on veut lutter contre le stress.
D'accord.
Parce que si on ne s'intéresse pas aux émotions, on passe à côté du truc principal à mon avis. En entreprise aussi, alors je parle un petit peu de l'entreprise parce que c'est vrai que j'ai pas mal de questions autour des relations familiales, parents-enfants et tout ça, mais j'aimerais bien parler un petit peu de l'entreprise parce que il y a souvent cette espèce de dichotomie, de séparation entre les problèmes personnels et les problèmes professionnels.
D'accord.
Et on dit en entreprise, les gens en gros n'ont qu'à laisser leurs problèmes personnels à la porte de l'entreprise pour gérer.
Oui, c'est ce qu'on dit, c'est vrai. Mais d'ailleurs, on évite souvent les relations dans l'entreprise entre deux personnes.
Ouais.
Alors, c'est peut-être différent, je pense. Ça.
Oui, parce que est-ce que tu sais arrêter de penser à quelque chose qui t'inquiète ?
Oui, mais difficilement, quoi.
Voilà,
très difficilement,
c'est ça. On va dire. Ce qu'il faut savoir, mais j'y reviendrai encore après, y a plein de choses dont j'ai envie de parler. Donc. Quand tu es sous le coup d'une émotion et que tu commences à avoir justement cette modification de ton discours psychique, enfin voilà, en fait, il y a une partie de ton cerveau qui est occupée à gérer ça, à gérer cette émotion, à gérer cette situation. Et donc, du coup, pour parler en termes techniques, ça te mange de la bande passante.
Oui.
Tu vois ce que je veux dire ?
Je vois ce que tu veux dire, oui, je comprends très bien.
Donc, tu as une partie de ton cerveau qui est moins disponible pour faire autre chose. Donc, si tu as des problèmes dans ton couple, par exemple, si tu as un enfant malade, si tu as un parent en difficulté, ça reste quand même une préoccupation dans ton esprit.
Et ça se ressent dans le travail, effectivement.
Et donc, voilà, tu es moins disponible intellectuellement pour faire ton travail.
C'est pas faux, ça.
Ben ouais, mais je dis que des choses vraies.
C'est vrai en plus.
Et c'est vrai aussi pour les enfants, par exemple. Il y a un excellent livre. Alors malheureusement, je ne crois pas qu'il soit traduit en français, mais qui s'appelle How Children Succeed, c'est-à-dire comment les enfants réussissent, qui est de Paul Toth et qui décrit une expérience qui a été menée aux États-Unis dans des banlieues extrêmement difficiles.
D'accord.
Et donc, ce sont des banlieues où les enfants, avant l'âge de 7-8 ans, ont tous au moins assisté à un viol, à un meurtre, à des scènes extrêmement violentes. Il y a beaucoup de violences familiales et extra-familiales. Et jusqu'à maintenant, on pensait que ces enfants-là, il fallait les stimuler intellectuellement. C'est-à-dire les mettre à l'école plus tôt, les faire lire plus, les stimuler vraiment au niveau intellect. Parce qu'on pensait qu'ils étaient dans un milieu trop pauvre intellectuellement pour apprendre.
Et que ça les bloquait justement.
Et que c'est ça qui les bloquait. D'accord. En réalité, on s'est rendu compte que c'était pas du tout ça. Que c'est juste que comme ils avaient à gérer tout un tas d'émotions extrêmement compliquées, ils avaient moins de cerveau disponible, pour s'intéresser aux apprentissages intellectuels. Et donc, l'expérience qui a été menée, c'est dans l'équivalent de l'école maternelle, de ne pas du tout viser d'apprentissage intellectuel, mais de viser des apprentissages émotionnels et relationnels. C'est-à-dire...
C'est rare.
Oui, c'est rare, mais ça méritait d'être tenté. Il était temps qu'on le fasse, quand même. Et donc, de viser à ce que les enfants apprennent à reconnaître leurs émotions, à prendre du recul sur ces émotions, à savoir comment les gérer, à savoir comment être en relation avec les autres pour sortir des rapports de force, de la violence et tout ça. Et du coup, ils se sont rendus compte que ces enfants-là réussissaient beaucoup mieux à l'école. Parce que comme ils avaient du recul sur leurs émotions, ils étaient beaucoup plus disponibles pour apprendre.
D'accord.
Et les apprentissages intellectuels se sont faits un peu tout seuls après.
Et,
quoi.
Et ça fait longtemps, ça ?
C'était dans les années 2000. Là,
ah oui, donc maintenant, 2010. Ils ont un petit peu grandi aussi.
Oui,
donc,
ils ont un peu de recul sur cette expérience.
Et alors, c'était sur des jeunes, très jeunes ou...
Oui.
D'accord.
Alors, ils ont fait avec plusieurs catégories d'âge. L'expérience qui décrit le plus, c'était avec les petits.
D'accord.
Mais ils ont testé ça sur plusieurs catégories d'âge.
Et ça marche sur tout le monde.
Et ça marche sur tout le monde.
Donc, voilà, pourquoi ne pas le mettre en place partout ?
Exactement.
Quelle est la question ?
D'où l'intérêt de mieux connaître ses émotions.
Ouais.
Alors, ce que je voulais faire aussi, c'est répondre à une des questions que j'ai vues sur Facebook, qui était Marine, qui nous dit « Quand je discute avec des mamans que je ne connais pas, j'ai tendance à être bavarde et à dire des choses que je ne veux pas dire, et je me surprends parce que je suis une grande timide et très réservée, ça me perturbe. » Alors, ce que Marine décrit là, c'est une des manifestations de l'émotion, c'est-à-dire le comportemental.
D'accord.
Elle se met à dire des choses qu'elle n'avait pas vraiment envie de dire, en fait.
Et donc là, elle se rend compte qu'elle n'avait vraiment pas envie, donc d'accord.
Voilà.
C'est pas une vilaine pensée.
Et pour le coup, c'est pas forcément une vilaine pensée, tu vois,
non,
tu disais tout à l'heure.
C'est clair, c'est clair.
Juste...
Je comprends bien.
À mon avis, il y a plein d'émotions mêlées dans cette situation, parce que c'est rare qu'on ressente une seule émotion isolée, mais à mon avis, il y a plein d'émotions mêlées dans cette situation. Il y a probablement de la peur.
Oui.
De la peur de passer pour... Alors, à la fois de la peur de passer pour une fille timide réservée, justement, et donc l'envie
De paraître encore mieux.
De paraître mieux, l'envie de faire, de sympathiser avec des personnes, voilà, qui nous plaisent, avec qui on a des affinités. Mmh. Et du coup, cette, l'excitation, c'est un mélange de plaisir et de peur.
Oui. un mélange de plaisir et de peur.
Oui, c'est-à-dire qu'on anticipe un certain plaisir. Ouais. On se dit, ouais, ça va être chouette.
Ah oui, on anticipe, d'accord. Voilà. Oui, on l'a pas réellement, finalement.
Non, mais on se dit que ça serait chouette si.
Oui.
Par contre, on a un peu peur, du coup, de ne pas y arriver.
Ouais.
Et c'est ça qui fait aussi que c'est bien, parce qu'il y a un petit défi à relever.
Ça booste, en fait. Ça donne.
Mais si la peur prend le dessus, du coup, parfois, on est amené à faire des choses qui peuvent être contre-productives.
Contre-productive, oui, effectivement. Oui,
tu vois,
c'est vrai.
Et du coup, ils se mettent à parler, à dire plein de trucs.
Et ça fait n'importe quoi.
Et les autres disent, mais qui c'est là? Ben oui, voilà, pas bien, tu vois. C'est vrai aussi dans les rapports de séduction. Hein, on a très envie, on voit quelqu'un qui nous plaît, donc on a très envie de rentrer en contact avec cette personne. Et en même temps, on a un peu peur de se faire jeter, ce qui est normal.
Ben oui.
Ce qui est logique.
Ben oui, c'est clair.
C'est n'agréable pour personne. Et du coup, parfois, on a tellement peur de se faire jeter ou de passer pour quelque chose qu'on n'a pas envie d'être, par exemple pour timide, qu'on va aller au-delà de ce qu'on voudrait faire et du coup, passer pour quelqu'un peu bizarroïde.
Fou dingo, folle dingo.
C'est ça, exactement. Donc, ça vaut le coup de se demander aussi ça, c'est-à-dire de quoi est-ce que j'ai peur et qu'est-ce que ça m'amène à faire et de quoi est-ce que j'ai envie et quelles seraient...
Donc, avant chaque intervention, avant chaque... même alors, je parle pas de débat public, de choses comme ça pour les gens qui sont un petit peu publics, justement. Mais même dans les relations intimes, des rencontres personnelles, des choses comme ça, ça peut être pratique justement de travailler ça.
Alors, il vaut mieux ne pas trop réfléchir non plus.
D'accord.
Parce que si on se met à réfléchir tout le temps, on va finir par se bloquer. Il y a une histoire que je raconte souvent aux personnes que j'accompagne et qui réfléchissent beaucoup, c'est l'histoire du mille-pattes.
Ouais.
Est-ce que tu connais l'histoire du mille-pattes, Olivier?
Je sais que le mille-pattes est né il y a 4 milliards d'années, je ne sais pas le reste.
En fait, c'est l'histoire d'un mille-pattes qui se promène dans la forêt, tu vois, il est hyper à l'aise avec ses mille-pattes, il grimpe et tout, il fait des sauts, machin... Génial. Et puis, il rencontre un crapaud qu'on pourrait dire facétieux, mais que je dis un peu mal intentionné, moi. Et ce crapaud lui dit, mais enfin, mille pattes, moi, je suis impressionné avec toutes tes pattes, là. Comment est-ce que tu t'y prends, ne serait-ce que pour marcher, quoi? Comment tu fais? Est-ce que tu peux m'expliquer comment tu fais pour marcher? Et alors, le mille pattes, évidemment, il a envie de répondre à cette question. Donc, il se met à réfléchir intellectuellement. Et il se dit, c'est vrai, comment est-ce que je fais pour marcher? C'est-à-dire, quelle patte est-ce que j'avance en premier? Celle-ci ou bien celle-ci? Non, c'est celle de derrière. Et tu vois, et à force de trop réfléchir, il n'y arrive plus, en fait.
Et il s'en mêle les pinceaux.
Il est coincé.
D'accord.
Il est coincé, tu vois. Donc, trop réfléchir, ce n'est pas forcément non plus une bonne idée.
Ben oui, non, c'est clair. Ouais.
Parce que du coup, on se bloque. Donc, cette histoire, elle a deux fins. Elle en a une optimiste et une pessimiste. Tu veux que je te dise les deux?
Alors, je veux bien. Moi, je veux bien écouter les deux.
Alors, la pessimiste, c'est qu'il est complètement bloqué. Il n'arrive même plus à marcher, à bouger. Il est coincé là. Et une mésange passe par là et le mange.
D'accord.
Voilà, c'est un peu tristoun.
C'est un peu tristouné, ouais.
La fin optimiste, c'est qu'il est coincé là. Il commence à réfléchir, mon Dieu, comment est-ce que je fais pour marcher? Et là, passe une jolie femelle mille pattes. Et pouf!
Il pense plus à rien.
Il pense plus à rien et voilà, il la poursuit. En fait. Et voilà, c'est reparti.
Ok.
Tu vois? Donc il faut arrêter de réfléchir.
Et oui, mais alors justement, mais là il arrête de réfléchir. Alors imaginons dans une situation bien particulière, hein, c'est-à-dire on parlait tout à l'heure des rencontres.
Oui.
Alors dans les rencontres, par exemple, on a un homme et une femme. L'homme est souvent, je pense, plus stressé que la femme.
Je sais pas pourquoi,
mais j'ai l'impression.
C'est bien possible.
C'est plutôt difficile de mettre en œuvre cet écart, ce qu'on va faire en fait, de se dire ben voilà, je pense plus à rien, tout simplement parce que quand on a démarré, quand on a débuté en fait la rencontre, on est peut-être stressé. Au fur et à mesure qu'on parle, on est encore plus stressé, on pense à ce qu'on dit et en même temps, on pense pas vraiment à ce qu'on fait. Hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et finalement, comment ça se passe après pour avoir ce petit cet élément déclencheur, en fait?
Alors,
parce que la personne, elle y est toujours depuis le début.
Oui.
On l'a pas, elle se présente pas, il n'y a pas une deuxième personne qui arrive super
malheureusement,
belle.
Malheureusement, on n'a pas une deuxième chance. Quoique, des fois, on peut arriver à avoir une deuxième chance.
On peut l'avoir, d'accord.
On va parler après des émotions les unes après les autres et on pourra parler de la peur un peu plus en détail. Parce que la peur, c'est quand même une émotion qui est hyper présente et qui est très handicapante, même pour des petites choses. Enfin, je ne parle pas de phobie ou de trucs comme ça, hein. Je parle dans les relations au quotidien.
Oui, des petites peurs, quoi.
Déjà, tu disais, je pense que l'homme est plus stressé que la femme. Alors, je sais pas si c'est une généralité.
Non, on va dire dans ce que je connais, moi.
Ouais, ouais. Mais ceci dit,
je parle pas de tout le monde.
Je pense que c'est pas complètement faux, ouais. Parce qu'on se fait des fois, on a des clichés un peu comme ouais. ça dans la tête. Mais je pense que effectivement, c'est pas complètement faux parce que, en général, déjà, celui des deux qui aborde l'autre, c'est celui qui a le moins peur de se prendre un râteau.
Oui.
Tu es d'accord avec moi aussi. Parce que si tu as vraiment trop trop peur de te faire jeter,
c'est
tu n'y vas pas.
Et généralement, c'est vrai que c'est plutôt les hommes qui ont peur de se faire jeter. Généralement, je parle. Pas oui. ceux qui viennent et pour juste pour draguer, quoi. C'est pas ça.
Les filles aussi, parce que si tu abordes, ouais, si tu abordes un mec et que tu vas lui dire salut, tu me plais, on va boire un café, ça peut ouais. aussi ouais. renvoyer une drôle d'image. Quoi. Tu vois ce que je veux dire.
Je bon. Comprends.
Mais on en reparlera après dans la partie sur la peur.
J'attends ça bien ça avec impatience. Ça moi.
Donc Marine, j'ai pas complètement répondu à ta question. Je vois que Corinne a confirmé qu'elle vivait la même chose dans des relations de séduction. Donc ça va être un sujet intéressant sur lequel on va revenir un peu dans la peur. Moi, j'ai juste une petite question, justement pour Marine. Je sais pas si elle va pouvoir nous répondre, mais en tout cas, c'est une question que moi je me pose. C'est est-ce qu'elle est vraiment timide et réservée?
Ah. Pourquoi ?
Parce que des fois, on a tendance à se coller des étiquettes tout seul. Mmh. Tu sais, on se dit, moi, je suis timide et réservée, donc je ne parle pas. Et là, en l'occurrence, elle est en train de nous dire que si, elle parle, elle est bavarde et tout. Alors oui. donc, est-ce qu'elle est vraiment timide et réservée ?
Oui, c'est clair, hein, on ne sait pas ça.
Tu vois ? Ou est-ce que derrière le « je suis timide et réservée », il y a une espèce de retenue parce qu'on a peur de passer pour... Ouais, quelque chose qu'on serait
et c'est,
pas.
Et c'est peut-être plus probable sur ce
je ne sais pas. C'est
on
une question que je pose. D'accord. Ça, c'est, on n'a aucun moyen de le savoir. Oui, hein. Il n'y a que Marine qui pourrait nous le dire. Et même...
Eh ben, elle peut répondre si elle veut.
Si elle
veut, pas de problème.
Elle peut répondre.
On attend.
Je vais te donner un autre exemple. Oui. Si ma maman écoute, ce qui est probable, elle te dirait que je suis bordélique.
D'accord.
Tu vois ? Et pendant longtemps, j'y ai cru. Oui. Mais alors, le fait de me dire que je suis bordélique, ça a des inconvénients. Parce que c'est pas très bien vu, mais ça a aussi des avantages.
Oui.
Est-ce que tu sais lesquels ?
Alors, bordélique, ça a des avantages. C'est-à-dire que nous, on se retrouve facilement dans le bordel, quoi.
C'est pas ça que je pensais. C'est assez vrai, mais c'est pas ça que je pensais. Ouais. C'est juste que si quelqu'un arrive chez moi et que ce n'est pas rangé, c'est pas de ma faute, je suis bordélique.
Ah oui, d'accord. Oui, ça peut être un gros avantage aussi.
Ça, c'est un avantage.
Oui, mais est-ce qu'on paraît pas un petit peu bordélique justement auprès des gens, quoi.
Mais il y a toujours des avantages et des inconvénients, tu vois.
C'est
une question de choix. C'est-à-dire quels sont les avantages que je préfère et quels sont les avantages. Et alors, l'autre inconvénient de se considérer comme bordélique, c'est que du coup, si je n'arrive pas à ranger parce que j'ai trop de boulot, parce que j'ai envie de me poser, je me dis, oh là là, je suis bordélique, je suis nulle, j'y arrive pas. Et je me renforce dans cette idée que je suis incompétente. D'accord. Alors que si je me dis, non, c'est pas que je suis bordélique, c'est juste que là, j'ai pas eu le temps. Je me renforce pas dans l'idée que je suis incompétente. Et donc, j'ai plus de chances de progresser parce qu'on progresse mieux et on évolue mieux si on est dans une ambiance plutôt positive où on se sent compétent et valorisé. Mmh. Quand on est dans une émotion un peu désagréable, ça marche moins bien.
C'est moins bien, oui.
J'insiste sur le mot désagréable. Est-ce que tu sais pourquoi ?
Alors, le mot désagréable.
Désagréable et pas négatif.
Ah, désagréable et pas négatif.
Ouais.
Ah ben non. Alors là, je bloque un petit peu parce que désagréable et pas négatif, souvent, pour moi, ça va ensemble.
Eh ben non. Avec les émotions, non. D'accord. Parce que pour moi, une émotion n'est jamais ni positive ni négative. Je vais expliquer pourquoi. Une émotion, elle est même... à mon sens, toujours positif, toujours utile en tout cas. Tu vois, positif et négatif, ça induit une espèce d'idée de bien, de mal, de trucs qu'il faudrait éliminer. Négatif, on essaie de l'éliminer en général.
Oui.
Tu vois ?
On essaye.
Alors que agréable ou désagréable, il n'y a pas cette connotation. Ok, c'est pas très agréable à vivre, mais il n'y a pas cette connotation, c'est négatif, c'est pas bien.
Oui, oui, c'est clair.
Et comme les émotions, c'est super utile, je préfère dire qu'il y a des émotions agréables et désagréables plutôt que des émotions positive et négative.
Mais on peut avoir quand même des émotions négatives finalement dans l'histoire.
Lesquelles par exemple ?
Des émotions, ça reste des émotions, donc ouais, c'est vrai finalement, non ? Non, j'allais te dire peut-être des émotions donc incontrôlables, je parle, ou difficilement contrôlables, on va dire.
Ça, c'est autre chose.
Mais et qui peuvent justement avoir de vilaines pensées à un certain moment, ça peut être quand même, même si c'est pas ce qu'on ressent, puisque ça, c'est du comportement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est ça pour.
Mais tu vois, ça, ce que tu viens de décrire, c'est autre chose, c'est un emballement émotionnel.
D'accord, bon, je suis plus du tout dedans, alors.
C'est-à-dire, si, tu es encore dedans, oui, mais tu vois, c'est parce que ton émotion s'est emballée.
D'accord.
Et que tu n'arrives plus à la maîtriser, oui, et que du coup, tu te retrouves à faire des trucs, soit complètement irrationnels, oui, complètement soit illogique, très douloureux, tu vois, dans les crises, oui, de panique dont je parlais tout à l'heure et tout ça, mm-hmm, c'est douloureux physiquement.
Oui.
Mais ça, c'est parce que l'émotion s'est emballée. Mm-hmm. L'émotion, à la base, elle a une bonne raison d'être.
Oui, puisque c'est une émotion, c'est ça.
Quand est-ce que tu ressens des émotions, Olivier ?
Quand je ressens des émotions, alors par exemple, bah, ça peut être n'importe quand, à n'importe quel moment pour moi. Je pense que c'est pour tout le monde pareil, non ? Je,
ouais,
sais pas, parce que c'est une impression que j'ai. Je fais n'importe quoi, j'ai tout le temps, hop, j'ai une petite émotion, un petit truc. Pour moi, ouais, plein de choses, enfin, tout ce que je fais est une émotion à l'origine, donc.
C'est exactement ça.
Ah, c'est ça? Bon,
oui,
d'accord.
Oui, tu es normal, Olivier.
Anormal complètement, tu vois. Mais non, du coup.
Tu
non.
es juste normal. Bon. On va pouvoir parler des gens hypersensibles, du coup, aussi.
Ah oui, je suis hypersensible, voilà, ça, c'est clair. Ouais.
C'est normal. Mais mm-hmm, l'émotion, elle te tombe pas dessus comme ça. Il y a généralement quelque chose qui la déclenche.
Bah oui, il y a un élément déclencheur.
Hein, genre, ton ordinateur qui marche pas.
Oui, tout, ouais.
Genre, la pluie qui tombe alors que t'avais prévu qu'il fasse beau.
Oui, oui, c'est ça.
Tu vois ? Et donc, l'émotion, elle est toujours déclenchée, mm-hmm, par un événement, mm-hmm, réel ou imaginaire. Je peux, oui, me faire peur juste en imaginant quelque chose, tu vois ?
Oui, bah oui, oui.
Ou je peux me mettre en colère juste en pensant à quelque chose. C'est pas forcément un événement réel, mm-hmm, physique qui est arrivé. Ça peut être quelque chose auquel on pense. Mm-hmm. Donc, l'émotion, elle naît de notre confrontation avec une situation réelle ou imaginaire, mm-hmm, qui ne se déroule pas tout à fait comme on l'avait prévu ou imaginé.
D'accord.
Le plaisir aussi, c'est ça. C'est-à-dire quand j'ai de la joie, quand je suis contente par rapport à quelque chose, c'est que les choses se déroulent mieux que ce que j'avais prévu.
D'accord, oui.
Tu, ouais, vois ?
Ben oui.
Là, par exemple, je fais cette émission de radio. Mm-hmm. J'avais un peu peur au début, mais finalement, j'ai l'impression que ça se passe
bien,
plutôt
ben
bien.
Oui,
donc
voilà,
je,
oui,
suis plutôt contente.
Ben oui.
Je te dirai ça complètement à la fin, quand même.
Non, mais je pense quand même.
Tu vois ce que je veux, ouais, dire ? Je m'imaginais, par exemple, que... alors, je ne parle pas de mon propre conjoint, hein, mon chéri, si tu m'écoutes, je te fais un petit coucou.
Un petit coucou, hein, comment il s'appelle ?
Hervé.
Hervé, ben voilà, un petit coucou, voilà, à Hervé.
Donc, imaginons que mon conjoint ait pour habitude de ne jamais mettre ses chaussettes sales, mm-hmm, dans le linge sale, par, ouais, exemple, et que j'ai toujours l'espoir qu'il finisse par, mm-hmm, le faire. Quand je vais rentrer chez moi, si je trouve des chaussettes sales par terre, mm-hmm, ça va m'énerver, tu vois ?
D'accord, et alors ça, c'est fréquent chez les femmes, par contre, je suis désolée de te le dire,
oui,
mais c'est vrai. Oui.
Chez certains hommes aussi, tu vois.
Ouais, ah oui, oui, c'est vrai qu'il y a des hommes, ben, qui sont, oui, plutôt stressés par ça. Ouais.
Ben oui, qui, ouais, sont... Tu vois, alors ça, c'est un truc...
La lunette des toilettes, par exemple.
Voilà, par exemple. Mais tu vois, ça, c'est un truc... ouais. J'essaye, moi, de ne pas faire trop de généralité, parce que je pense qu'on est tous différents, et qu'il y a des femmes qui aiment bien que les choses soient rangées, organisées, mm-hmm, etc. Et puis, il y a des hommes aussi qui aiment bien ça. Donc, c'est pas propre à l'un ou à l'autre, ouais, sexe. C'est ça que je veux dire. Bon, bref.
D'accord.
Donc, tout ça pour dire que l'émotion, elle naît de la confrontation avec une, mm-hmm, situation. Elle est toujours déclenchée par quelque chose.
Oui.
Et elle naît de façon spontanée.
Spontanée. C'est spontané, quoi.
Spontané. Qu'est-ce que ça veut dire, spontané ?
Ben, spontané, oui, c'est que ça, à l'instant même, on n'avait rien prévu, et puis c'est à l'instant même que ça se fait. C'est ça ?
C'est ça. C'est, voilà, hors de notre contrôle volontaire.
Voilà, oui.
C'est-à-dire, je ne peux pas décider, mm-hmm, de ne pas ressentir une émotion.
Oui, c'est ça. Ouais.
Elle est là, et je dois en faire quelque chose.
Mais comment t'as appris tout ça, franchement ? C'est impressionnant. Moi, ça m'impressionne.
Mais je lis beaucoup, déjà.
D'accord.
Et puis, j'ai fait pas mal de formations, et puis...
ah, voilà, oui, il y a aussi
Et puis,
ça.
Je travaille beaucoup dans l'accompagnement, alors du coup,
ouais, bah oui,
je suis obligée d'essayer de comprendre comment ça fonctionne, tu vois.
D'accord. Allez, je te laisse.
Donc, cette émotion, elle est spontanée, oui, donc hors de notre contrôle volontaire. Donc, elle arrive, elle nous tombe dessus, mm-hmm, et la question, c'est qu'est-ce que je vais en faire ? Tu vois ?
D'accord.
Et c'est ça qui est compliqué. Donc ça, je mettrai des petits schémas aussi après. Hein, pour, Est-ce que tu sais à quoi ça sert, une émotion, du coup ? À part à t'embêter, tu vois ?
Non, parce que alors moi, c'est pas tout le temps à m'embêter. Et justement, c'est plutôt le contraire. C'est à chaque fois que je ressens une émotion, peu importe l'émotion, c'est tout le temps d'ailleurs, je trouve ça plutôt agréable, on va dire.
Chouette.
Parce que je le prends bien. Ouais. Voilà. Je sais pas pourquoi.
Ouais.
Je sais pas du tout.
Mais à ton avis, ça sert à quoi, toutes ces émotions ?
Je peux pas te dire. Je sais pas. Je pense à rythmer la vie, quoi.
Ouais, alors déjà, c'est ça qui nous fait sentir un peu vivant, ouais.
Oui, voilà, oui, parce qu'on a sans émotion, on serait rien. Enfin, je pense qu'on.
On serait mort.
Oui, voilà, on a tout le temps des émotions.
J'exagère un petit peu.
Non, mais c'est un petit peu ça, oui, on serait, ouais, un légume, quoi. C'est...
Bon. Alors,
et même les légumes, je pense qu'ils ont
peut-être
des émotions.
Peut-être que les légumes ont des émotions, ça, on ne sait pas, tu vois. Ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que tu vois, il y a des études qui ont été menées, par, ouais, exemple, sur des gens qui avaient des lésions cérébrales,
ouais,
qui faisaient qu'ils ne percevaient plus leurs émotions.
Ouais.
Et ce qui est assez surprenant, c'est, mm-hmm, que quand on ne perçoit plus ses émotions, on se comporte de façon complètement irrationnelle, même dans les actes de la vie quotidienne. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'on ne prend plus de décisions logiques, alors qu'on ne ressent plus d'émotions, ce qui paraît complètement contradictoire.
Ben oui, ouais, c'est étrange.
Mais oui, mais c'est pas si étrange que ça, puisque l'émotion, en fait, elle sert à nous aider à nous adapter. D'accord. Tu vois, par exemple, sur la route, t'es en train de conduire, tout d'un coup, il y a un camion qui surgit, tu as peur. La peur, elle met tout ton corps en mouvement pour pouvoir réagir vite et bien à cette situation de danger.
Ok. Donc oui, ça, c'est une situation déjà...
Tu vois ?
Oui, je comprends.
Et l'émotion, c'est la route courte. C'est-à-dire, c'est très rapide en temps de réaction. Et c'est nécessaire, par exemple, dans les situations de danger. Parce que si tu te mets à réfléchir à... Alors là, je dois appuyer sur l'embrayage, passer la vitesse, appuyer sur le frein, tourner le volant, t'es mort.
On n'y arrive pas.
Tu es mort,
clair,
au sens propre.
Ben oui.
Tu vois ce que je veux dire ?
Ben oui.
L'homme des cavernes, j'ai une collègue qui donne ça comme image. Elle dit, l'homme des cavernes, quand il rencontrait un mammouth un félin à dents en sabre, eh ben, il fallait qu'il court vite et tout de suite. Quoi. Il ne fallait pas réfléchir.
Ben oui, s'il se met à réfléchir, est-ce que tu penses que je vais pouvoir monter dans un arbre ?
Alors, qu'est-ce que je fais maintenant ? Tu vois, ça y est, c'est trop tard, il s'est fait croquer. Quoi.
C'est clair.
Donc, les émotions, alors là, on parle de la peur, mais toutes les émotions ont cet objectif-là de nous aider à nous adapter à un environnement qui vient de changer. Tu vois, parce que là, t'es là, tout se passe bien, il n'y a pas d'événement particulier. Tout d'un coup, bam, imaginons, croisons les doigts pour que ça n'arrive pas, l'ordinateur tombe en panne.
Touche le bois de la table.
C'est ça, touche bien le doigt. Là.
Vas-y, vas-y, dis.
L'ordinateur tombe en panne.
Oui.
Tu vois, tu vas être en colère et tout ça. C'est une modification de ton environnement qui
c'est
va
ça,
susciter
exactement.
Des réactions pour t'amener à réagir vite.
Oui, et c'est terrible. Ces moments-là sont terribles.
Bah, évidemment qu'ils sont terribles.
Oui.
Donc, tu vois, c'est, l'émotion, ça sert à ça, à s'adapter à notre environnement.
D'accord. Okay.
Ça va ?
Oui, oui, pour moi, c'est bon.
Qu'est-ce qu'on dit maintenant ?
Alors, qu'est-ce qu'on dit ?
On va peut-être.
Oui, ben c'est surtout qu'on va voir le journal dans très longtemps. Alors, juste pour. Je suis en train de. Voilà, je cherchais ma feuille. Émotion spontanée, justement. Ça m'arrive là, je sais pas pourquoi, je suis perdu. Alors, on va avoir. Oui, effectivement, on va avoir le journal dans quelques instants. Juste pour rappeler un petit peu la présentation de la suite de cette émission.
Alors, allons-y. Pour la suite, donc j'ai plein de questions, donc je vais pouvoir répondre à toutes ces questions. On va aller aborder les émotions un peu une par une, et à l'intérieur de ces émotions une par une, on va pouvoir justement regarder comment on peut réagir face à certaines situations.
D'accord.
Je vais répondre à Marine, à Corinne, à Emmanuel, à Marie-Pierre, à Séverine, à tout ça. Et puis je pense que quand on aura fait tout ça, ça sera déjà bien avancé.
Ce sera déjà pas mal.
Et je vous mettrai. Donc j'ai commencé à mettre sur la page Facebook un certain nombre d'images. Enfin, j'en ai mis qu'une pour le moment. Je vous donnerai aussi quelques ressources à la fin, une bibliographie, quelques bouquins intéressants.
Ça va être bien. Moi, je vais les acheter après.
Voilà. Et puis quelques sites internet sur lesquels vous pouvez trouver des choses intéressantes aussi.
D'accord.
Ok.
Mais très bien. Alors à tout de suite.
À tout de suite.
Il est 9h58. C'est le journal dans quelques instants.
Votre radio, vos émotions.
Radio.
Alstom, les négociations avec General Electric et Siemens se poursuivent. Les Occidentaux prêts à de nouvelles sanctions contre la Russie. Et enfin, les paysages de désolation aux États-Unis après le passage de plusieurs tornades. Alstom, dont la branche énergie intéresse l'américain, General Electric et l'allemand Siemens, a annoncé dimanche 27 avril qu'il poursuivait et approfondissait sa réflexion stratégique et qu'il informerait le marché d'ici au mercredi 30 avril matin. Le groupe, qui ne donne pas plus de précisions, ajoute simplement que dans l'intervalle, il a demandé la suspension de la cotation de son titre. L'Élysée a précisé que François Hollande recevrait successivement le PDG de l'américain General Electric, Jeffrey Immelt, puis celui de l'allemand Siemens, Joe Kaiser, dans la soirée. Étudier sereinement toutes les options, cette annonce n'est pas surprenante. Arnaud Montebourg, le ministre de l'économie, a annulé sa rencontre prévue dimanche au soir avec M. Immelt, a-t-on appris d'une source proche de Bercy. L'État français entend étudier sereinement toutes les options qui s'offrent à Alstom, et notamment les propositions émises par Siemens, explique cette source. Dans un communiqué, le gouvernement a précisé sa position. Alors que le week-end a été à nouveau marqué par des incidents dans l'est de l'Ukraine, les pays occidentaux s'apprêtent lundi 28 avril à mettre en place de nouvelles sanctions contre les intérêts de la Russie afin de punir la non-application par Moscou de l'accord de désescalade. Moscou affirme que le gouvernement de Kiev est à l'origine de la non-application de ce document signé il y a 10 jours à Genève. Le président américain Barack Obama a estimé que pour faire cesser les provocations de Moscou, il fallait de nouvelles sanctions internationales, je cite, « tant que la Russie suivra la voie des provocations plutôt que d'essayer de résoudre cette question par des moyens pacifiques et de favoriser une désescalade, il y aura des conséquences et ces conséquences iront croissant ». Une série de violentes tornades a frappé dimanche 27 avril le centre des États-Unis et particulièrement autour du comté de Little Rock dans l'état de l'Arkansas. Au moins 10 personnes ont été tuées selon le bilan provisoire des autorités, 8 dans l'Arkansas et 2 autres non loin de là dans le sud de l'Oklahoma. D'autres tornades ont parcouru le centre et le sud du pays et provoqué d'importants dégâts, arbres et pylônes abattus, structures endommagées, mais aucune autre victime n'a été signalée. Des alertes ont été diffusées du Nouveau-Mexique à l'ouest jusqu'au Tennessee à l'est. Les États-Unis sont touchés chaque année par environ 1 000 000 de tornades. Elles se forment en raison de la rencontre au printemps des courants froids et secs descendant du pôle Nord et des courants d'air chaud et humide remontant du golfe du Mexique. À une altitude beaucoup plus basse, la présence des rocheuses à l'ouest provoque une ondulation du jet stream, un courant d'air très rapide évoluant à 10 km d'altitude, favorable aux perturbations orageuses sur les grandes plaines. Une petite musique pour reprendre avant cette émission entre nous avec Sandrine Donzel, 9h-11h, c'est Mika et Barry White dans quelques instants juste après. Écoutez. Mika, Karen sur Bugé Radio, il est 10h05, on reprend l'émission entre nous avec Sandrine Donzel. Alors Sandrine... On est en direct, effectivement.
On est en direct.
Oui. Voilà.
C'est alors, chouette. Il y a plein de questions qui arrivent.
On a plein de questions.
Ouais. Donc, juste, on en était à dire que l'émotion, c'était quelque chose qui était très utile parce que ça nous aide à nous adapter à une situation, à une modification de l'environnement. Donc, il y a un chemin court. J'ai mis un schéma sur la page Facebook de la radio. Il y a un chemin court et un chemin long. Mm-hmm. Le chemin court, c'est l'émotion. Tchouk, ça nous déclenche une réaction qui est un peu grossière, c'est-à-dire qui ne prend pas en compte tout, mais qui dit globalement ce qu'on perçoit dans l'environnement. Et puis, il y a un chemin long qui est plus intellectuel, long en temps. Qui est de réfléchir à la question. L'idée, c'est pas d'éliminer la partie émotionnelle pour n'avoir que la partie intellectuelle, c'est d'arriver à concilier intelligemment les deux.
D'accord.
Après, tout dépend ce qu'on appelle intelligemment.
Mais intelligemment, oui, voilà.
J'ai une question extrêmement intéressante sur la page Facebook de la radio. Donc, je rappelle, Facebook/Bugé Radio, de Emmanuel qui dit mais en ces temps où il faut tout maîtriser, là, comment est-ce qu'on peut concilier les deux? Alors, comme on l'a vu tout à l'heure, l'émotion, c'est quelque chose de spontané qui est hors de notre contrôle volontaire. Ce qu'on constate et ce que les études actuelles montrent, c'est qu'à partir du moment où on essaye de lutter contre ces émotions, de les faire taire, de les éteindre, on commence à avoir des problèmes.
D'accord.
Parce que c'est en fait une partie de nous-mêmes et donc on essaye de faire taire une partie. Donc se battre contre soi-même, c'est une bonne façon de perdre.
Exactement.
Parce que, c'est clair. Et en plus, du coup, on passe à côté d'informations très intéressantes. Parce que l'émotion, elle nous apporte essentiellement de l'information.
D'accord.
Et c'est pour ça que du coup, je vais en venir un peu à toutes les émotions les unes après les autres. Par laquelle on commence? Est-ce qu'on commence par la peur? Parce qu'on en a déjà
beaucoup parlé. Moi, j'aime bien la peur. J'ai envie de voir un petit peu ce que ça donne.
Avant de rentrer dans la peur, justement, ce que je voulais dire, c'est que souvent, on a face à l'émotion une réaction. C'est-à-dire une réponse assez purement émotionnelle et qu'on peut décider d'avoir une réponse. C'est-à-dire de pouvoir répondre d'une façon qui soit peut-être plus constructive, mais que ça demande du temps, donc, et ça demande un peu de prise de recul sur l'émotion.
D'accord.
Alors, allons-y pour la peur.
Alors,
comment tu vois ça, la peur, toi?
Pour moi, c'est un petit peu compliqué, la peur.
Donc, alors, à part les souris.
On parle pas de phobie, dans ce cas-là, c'est ça? Quoi que ça peut faire
partie. Ça peut. C'est toutes les situations qui génèrent un peu de peur, d'appréhension, d'anxiété, d'angoisse, de panique, tu vois, il y a plein de niveaux.
Moi, c'est plus les angoisses, je pense. J'ai des peurs bizarres, étranges, je vais les donner. Normalement, je parle pas de moi comme ça.
Bon, voilà.
Mais personne ne nous écoute.
Non, voilà, on est tout seul.
On est entre nous.
Voilà, on écoutera juste le replay, c'est pas grave. C'est ça. Alors, pour moi, c'est un petit peu spécial parce qu'en fait, on va dire que je m'inquiète pour plein de petites choses pas très graves. Enfin, pas très graves. Non, alors, oui, justement, pour moi, c'est très grave. Alors, parce qu'en fait, je t'explique un exemple. Hein. Par exemple, ma femme travaille loin d'ici, on va dire, loin de chez nous. Et du coup, ben, en fait, quand elle rentre du travail ou quand elle va au travail, moi, je préfère qu'elle m'appelle, qu'elle me dise je suis arrivé, je pars, enfin voilà, tout ça. Et parfois même, à un certain moment, je ne sais pas pourquoi, je devais être plus stressé à ce moment-là pendant quelques temps. Et je lui parlais, puis je lui parlais tellement longtemps, je m'en rendais même pas compte que je faisais exprès de lui parler au téléphone, alors que c'est dangereux dans la voiture.
Pour être sûr qu'elle est toujours là.
C'est incroyable. Par peur qu'elle ait un accident, qu'elle... Ouais. Enfin voilà, tout ça, ouais. Quoi.
Donc tu vois, pas pourquoi.
Tu fous, je sais, oui.
Voilà. Là, t'es en train de ne pas te prendre au sérieux. Exactement.
Ben ouais.
Ce risque, il existe.
Ben oui, justement.
Personne.
Arrête, ça y est, tu vas me le redire maintenant. Bon, ça va aller à la maison.
Quand on a peur, on a toujours une bonne raison d'avoir peur. On n'a pas toujours raison de réagir comme on le fait. Tu vois, par exemple, tu lui demandes de t'envoyer un message et tout ça, mais que tu lui parles au téléphone, intellectuellement, tu dis, en fait, j'augmente le risque.
Oui, et puis je m'en rends compte en plus quand je lui dis, je m'en rends compte et ça m'énerve et je le refais. Et je continue.
Mais oui, parce que tu ne peux pas t'en empêcher parce que tu as peur. Bizarre, hein. L'idée, ça serait de pouvoir gérer ta peur autrement.
Bah oui.
À partir du moment où j'essaye de lutter contre ma peur et j'essaye de lui dire, mais non, tu n'as pas de raison d'être.
Stop, quoi.
Stop, tais-toi. Chut. Coucher la peur.
D'accord.
Tu vois, ça marche pas avec la peur. Ça marche avec les chiens, ça marche pas avec la peur. D'accord. Parce que comme la peur est un signal d'alarme, la peur, c'est vraiment ça. C'est un signal d'alarme qui dit attention, il y a un risque. Il y a un risque dans ton environnement. Attention, attention.
D'accord.
La peur, c'est extrêmement utile, par exemple, pour se préparer. Si je n'avais pas du tout eu d'appréhension par rapport à l'émission de ce matin, je serais venue les mains dans les poches, je n'aurais pas préparé.
Oui.
Et ça aurait probablement été moins intéressant, à mon avis. tu vois, par rapport à un examen que tu dois passer et tout ça, si tu n'as pas peur, tu te prépares mal.
Oui, on se prépare mal, c'est clair.
Donc, c'est bien la peur, ça sert à quelque chose.
Ben oui.
Tu vois, dans un couple, la peur de perdre l'autre, c'est aussi ça qui va faire que du coup, tu vas être attentif à l'autre, que tu vas faire attention à la façon dont tu te comportes pour préserver cette relation. Donc, la peur, à la base, elle est utile. La question, c'est qu'est-ce que j'en fais, tu vois.
Oui, ben oui.
Parce que si tu as tendance à te dire, mais non, je suis bête d'avoir peur de ça, tu peux amener ta peur à s'emballer. Je me souviens d'une situation comme ça, où j'avais une maman qui était venue me voir, et elle me disait, je ne peux pas dire au revoir à ma fille, parce que je pense que ça serait lui mentir, je peux mourir dans la journée, mais c'est complètement débile de penser ça, c'est n'importe quoi. Tu vois, elle-même, elle se disait, j'ai tort d'avoir peur.
Ouais, mais alors moi, ce qui est bizarre, c'est ça, c'est un petit peu ce sens-là. C'est pas le sens où j'ai peur qu'elle parte avec quelqu'un ou quoi que ce soit.
Ouais.
C'est la peur, c'est bizarre parce que c'est une sensation d'envie de contrôler quelque chose qui est totalement incontrôlable. Parce que la peur de l'accident, de la mort, de ces trucs-là, c'est ça que j'ai peur, c'est de ça.
Ouais.
Et c'est pour ça.
Et ça, tu vois, rien ni personne ne pourra jamais te rassurer là-dessus.
Il y a que moi qui... Ouais.
Mais même toi, enfin, je veux dire...
Non, il y a que moi qui serait comme ça, et puis voilà, toute ma vie, quoi.
Mais tu vois, cette maman, en l'occurrence, donc son entourage, quand elle en parle à son entourage lui disait, mais enfin, n'y pense pas, ça c'est facile à dire. Les gens qui vous disent, n'y pense pas, lâche prise
c'est terrible,
et tout.
C'est terrible, ça, c'est...
Eh ben, ne les écoutez pas. Voilà.
D'accord. Bon, c'est bien. Alors, comme ça, je le sais.
Parce que son entourage lui disait ça, donc elle-même, elle se disait ça. Et du coup, elle luttait contre sa peur. Et en fait, quand on en a discuté, donc moi, je lui ai dit une chose qui pourrait paraître assez violente. Je lui ai dit, effectivement, vous pouvez mourir ici, là, en sortant de chez moi, là.
C'est possible. Oui, c'est pareil. Oui.
C'est possible. Bon, il y a eu tout un travail qu'on a fait ensemble, mais qui n'a pas duré très longtemps. On s'est vu trois fois, donc, tu vois, ou deux fois. Donc,
c'était pas excessif.
Mais du coup, elle est repartie en disant, bah, c'est vrai. Et quand elle est revenue la fois d'après, elle m'a dit, en fait, bah, j'ai pris rendez-vous avec mon notaire, parce que je me suis rendu compte que par rapport à mes enfants, bah, effectivement, je n'avais pas du tout préparé, je ne sais pas ce qui se passe, si on meurt et tout ça. Elle avait préparé une lettre pour son enfant à lui transmettre si jamais elle venait à disparaître.
Moi, j'arriverais pas à faire ça, c'est terrible.
Mais du coup, ça l'a beaucoup apaisée, en fait, par rapport à cette situation. Parce que sa peur lui disait juste attention, c'est pas tout à fait prêt de la façon dont tu aimerais que ce soit prêt.
D'accord.
Tu vois ce que je veux dire?
Ouais, c'est ouais, mais moi je le ressens. Alors ça, c'est difficile à mettre en place pour moi, quoi, quelque chose comme ça. C'est ben parce que j'ai pas, enfin moi j'ai peur de mourir pour les autres en fait. Mm. Bon, moi je m'en fous un peu, on va dire, en parlant vulgairement. Mais pour les autres, j'ai peur, quoi.
Alors il y a deux choses. D'abord, je voudrais insister sur le fait qu'il n'y a pas de solution. Mm-hmm. Ce que j'ai dit là, de préparer le fait de mourir, tout ça, ça a été la solution pour cette personne-là.
D'accord, ah oui, voilà.
Une autre personne va trouver d'autres solutions après.
Donc c'est pas obligatoirement ça pour moi.
La façon de gérer les choses, elle est vraiment propre à chacun.
D'accord.
Dans ce que tu disais tout à l'heure, face à la peur, on a souvent tendance à avoir plusieurs attitudes possibles. Oui. Il y a le contrôle et il y a l'évitement. Alors, on va parler un petit peu du contrôle, puisque c'est ça dont tu as parlé.
Oui.
Le contrôle, c'est la tendance à vouloir mettre en place des choses pour éviter que les situations risquées ne se produisent.
D'accord.
Enfin, pas pour éviter qu'elles se produisent, mais pour faire en sorte qu'on puisse tout maîtriser.
Voilà, ouais, c'est juste l'envie de ça.
Ouais, c'est l'envie de tout maîtriser. C'est ce qui amène parfois les gens, par exemple, à avoir des tocs. C'est-à-dire, si je mets bien mes stylos bien
comme
il faut.
Mais c'est terrible. Et moi, quand je suis stressé pour ça, je fais ça.
Voilà. Rien ne va se passer.
Mon téléphone portable, je le mets d'une certaine manière que si quelqu'un vient le toucher, je le remets. C'est terrible, alors que ça fait rien, quoi.
C'est une espèce de rituel. C'est un rituel. Si ça ne devient pas envahissant et qu'il s'agit juste de mettre ses stylos et de remettre son téléphone droit, excuse-moi, mais c'est pas très grave.
Oui, puis en plus, je m'en rends pas vraiment compte, c'est rapide. Enfin,
c'est pas très handicapant pour toi. Tu vois ce que je veux dire?
Ouais,
c'est pas très. Tant que c'est pas handicapant dans ta vie, c'est une façon de gérer.
Oui, bah oui.
C'est une façon de gérer. Il n'y a pas de problème.
D'accord.
Chacun fait comme il veut. Un jour, je discutais sur Internet, une personne me dit, moi, le soir, j'ai 30 ans et je dors encore avec mon doudou. J'ai dit, et alors, c'est quoi le problème?
Oui, ça fait bizarre, effectivement. Quand on l'entend comme ça, ça peut faire très bizarre. Mais bon, oui.
Bah,
si c'est sa façon de gérer la chose.
Moi,
la situation.
Je me tortille les cheveux. Voilà.
Ah oui,
chacun son truc, tu vois.
Bah oui.
Tu vois,
moi, je me les tortille pas, je peux pas, j'en ai plus assez.
T'en as pas assez. Ils sont un peu trop courts, ouais. Donc, c'est une façon de gérer. Et à partir du moment où elle est fonctionnelle pour vous, enfin, pour toi, Olivier, ou pour les personnes qui nous écoutent, elle est fonctionnelle, c'est-à-dire, elle me pose pas trop de problèmes dans ma vie sociale, j'arrive à vivre, ça me va bien.
Voilà.
C'est peut-être pas la peine de se dire, je dois changer, quoi.
D'accord.
Parce que quand on commence à lutter contre ces rituels, il y a des risques qui deviennent encore plus envahissants. Donc, il faut prendre des précautions.
C'est sûr.
Avant de décider de changer quoi que ce soit. Il faut bien réfléchir à ce qu'on veut
faire. Il faut venir te voir avant. C'est plus pratique.
Bah forcément.
si, parce que moi, j'ai compris plein de choses là, Marco, tu vois.
Tu peux écouter la radio aussi.
Ça me rassure sur moi.
Voilà.
Oui, je peux écouter l'émission, voilà.
Donc voilà, pour la peur, il y a ce phénomène-là. Il y a le phénomène aussi quand on a peur, on a tendance à vouloir éviter les situations qui nous font peur. Alors, l'évitement, ça produit un effet paradoxal qui est que on a une situation qui nous fait peur, on n'y va pas, on ne l'affronte pas.
D'accord.
Et donc, on s'envoie inconsciemment le message, t'es pas capable de gérer. Et plus j'évite, moins je suis capable de gérer.
Je
me sens capable de gérer.
Oui, voilà, c'est la sensation,
Ouais. Et donc, je suis coincée dans cette espèce de spirale où plus j'évite, plus j'ai peur. Et plus j'ai peur, plus j'évite.
Bah oui.
Et donc, à un moment donné, il va peut-être falloir apprendre à affronter un petit peu. Tu vois?
C'est ça, oui.
Et on peut avoir des peurs, par exemple, relationnelles.
Oui.
J'ai peur du conflit, par exemple. J'ai peur de m'affirmer. J'ai peur de dire des choses qui vont blesser les autres. J'ai peur de dire des choses qui vont traumatiser mon enfant. Et du coup, on est beaucoup dans le contrôle. Et ça devient très compliqué.
Oui.
Par rapport à la peur du conflit, tu vois, il y a une chouette situation de Christophe André qui est qui dit quand on alors il faut que je la retrouve quand on ne s'en sent pas capable d'affronter la contrariété de l'autre, ce n'est jamais le moment de s'affirmer.
D'accord, oula, oui.
Tu vois, c'est-à-dire que tu as peur, si, par exemple, moi je te parle là.
Oui.
Si jamais j'avais peur de te vexer ou de te blesser, si j'en avais trop peur, je pourrais du coup m'empêcher de dire des choses, m'empêcher de te poser des questions, et ça pourrait être handicapant dans notre relation.
Ou si moi j'ai envie de te répondre, j'ai envie de te contredire, on va dire. Et soit j'hésite pas. Du coup, c'est ça.
C'est ça.
D'accord, ok.
Tu vois, mais c'est pas toujours approprié non plus de s'affirmer et de dire les choses.
Oui, parfois, il faut être modéré, quoi.
Je sais pas ce qu'il faut, mais parfois c'est plus adaptatif, plus efficace, plus écologique, on dit.
Ouais.
Pour la personne, c'est-à-dire ça préserve mieux son intégrité
c'est clair.
De ne pas dire les choses et parfois ça préserve mieux de dire.
D'accord.
Et ça, il y a juste en regardant la situation concrètement qu'on va pouvoir le décider. Il n'y a que la personne qui peut faire ce choix-là. Personne d'autre ne peut faire ce choix-là à la place en disant « mais il faut le dire J'entends parfois des gens me dire « oui, mais il faut que je m'affirme ». Je ne sais pas si
ça dépend,
faut
ouais.
que les gens s'affirment. Vous avez envie peut-être de le faire. Dans quelle situation vous avez envie de le faire? Quel risque vous prenez si vous faites ça? Est-ce que vous êtes OK pour prendre ce risque ou pas? Tu vois ce que je veux dire?
C'est compliqué parce que c'est vrai que c'est un truc... Et puis, c'est chaque personne différemment à chaque fois.
Et chaque situation. Chaque personne avec qui je suis en relation. C'est peut-être approprié de m'affirmer un peu plus par rapport à mon conjoint ou à ma compagne. Ça l'est peut-être pas par rapport à mon chef.
Ou inversement. Oui, c'est clair.
Ça dépend de la façon dont je gère actuellement et du résultat que ça produit. Tu vois, c'est une question d'efficacité, c'est-à-dire qu'est-ce que je veux faire et où est-ce que je veux en arriver. Alors, j'en reviens un petit peu à la peur, parce que du coup, on n'a pas énormément dit par rapport à la peur. J'ai dit que c'était un signal d'alarme. Donc, essayer d'éteindre sa peur, c'est comme essayer d'éteindre le signal d'alarme sans s'intéresser à ce qu'il a déclenché. Donc, si je fais ça, je peux amener la maison à brûler.
tu vois ce que je veux dire. C'est clair.
Donc, du coup, c'est à mon avis plus efficace d'aller s'intéresser justement à ce qu'il a déclenché. C'est-à-dire, de quoi est-ce que j'ai peur exactement? C'est quoi le pire qui pourrait arriver dans cette situation? Il y a une belle citation de Confucius qui dit « Espérer le meilleur, préparer le pire et prendre ce qui vient ». Parce que si je suis préparé à gérer le pire, et ben quand le pire arrive, c'est dur, mais je suis préparée. On parlait des relations de couple. J'ai vu une situation comme ça une fois. Donc c'est un monsieur qui était très jaloux, enfin qui produisait des comportements jaloux, c'est-à-dire il reprochait à sa femme de sortir, il lui faisait des scènes pas possibles et tout ça. Donc on dit il est jaloux. Donc une fois qu'on a dit ça, c'est incurable. Qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse? En réalité, ce monsieur était très désespéré parce qu'il se rendait bien compte que ce qu'il était en train de faire, ça provoquait le fait que sa femme, elle commençait à lui dire c'est bon là, tu lâche-moi quoi. Je vais partir si tu continues. Et en fait, il faisait ça simplement parce qu'il avait peur.
C'était la peur
qu'elle parte.
Parce
qu'il se disait, enfin, il s'était jamais posé. Alors du coup, il se disait, mais je suis bête, il faut pas que je me conduise comme
Mais la jalousie dans le couple, c'est souvent ça même, non?
Ben oui, c'est presque toujours
c'est
ça.
C'est la peur que l'autre parte, laisse tomber la personne, quoi.
C'est ça. De se retrouver seul. Alors après, la vraie peur qu'il peut y avoir derrière tout ça, elle est très différente selon les personnes. Certains ont juste peur de ne plus jamais arriver à construire une autre relation de couple. Certains ont juste peur de vivre seul. Certains ont peur de mourir seul.
Certains aiment tellement la personne qu'ils se voient pas du tout dans une autre situation, quoi.
Ouais, alors.
C'est possible aussi.
Je pense que quand on en est à ce point-là, c'est généralement qu'il y a une peur de se retrouver tout seul. Enfin, qu'il y a quelque chose par rapport au fait d'être
seul. Oui, parce qu'on est bien, parce que peut-être on est bien dans cette situation, justement.
C'est possible.
Ça peut arriver.
Tu vois, mais du coup, cette peur-là, il essayait de la chasser, ce monsieur, encore une fois. Il essayait de se dire, mais j'ai tort il disait, j'ai tort d'avoir peur, j'ai confiance en elle, elle me quittera. Mais en réalité, son inconscient lui disait, attention, le risque existe. Et du coup, le jour où on l'a invité à s'intéresser à sa peur, tu vois, et à se dire comment ça se passerait si jamais
ça arrivait. Le stress, là.
C'est dur, hein. Un exercice difficile à faire. Par contre, quand on fait cet exercice-là, souvent, soit on se rend compte que finalement les choses sont pas si graves que ça, soit on se rend compte que on a des ressources pour gérer. Soit on se dit qu'effectivement, il nous manque peut-être des ressources et à ce moment-là, on peut apprendre certaines choses. Tu vois, si t'as peur parce que tu sais pas comment rentrer en relation avec quelqu'un et que tu sais pas aborder une fille, par exemple, peut-être que c'est ça que t'as besoin d'apprendre. Une fois que tu sauras faire ça, tu te sentiras mieux. Tu vois ce que je veux dire? Donc, d'aller contacter les ressources qui vont nous permettre de gérer cette situation. Mais la peur en elle-même, elle est toujours justifiée.
Mais alors, c'est bizarre parce que moi, je fais plus ça. De me mettre dans une situation un petit peu improbable, on va dire, qu'on n'a pas réellement en face de soi, mais c'est plutôt pour gagner au loto, les choses comme ça, je me dis combien je vais gagner, et puis si je gagne tant, et ben combien, qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec, est-ce que je vais pouvoir arrêter complètement de travailler, tu vois, c'est ça.
Là, tu te fais des petits plaisirs, tu vois.
Mais c'est plus en plaisir, je le fais justement, vu qu'il y a la peur, je le fais pas pour ça, quoi.
Mais oui, parce qu'on essaye d'éviter cette sensation désagréable, mais parfois, il faut la provoquer un peu. Parfois, pas tout le temps, parfois c'est utile d'aller la chercher.
D'accord.
Bon. Tu vois, et d'aller un peu en contact à ce truc-là, et dire, tiens, de quoi est-ce que j'ai peur? Qu'est-ce qui pourrait se passer de pire? Tu vois, par exemple, mes amis, ils savent bien qu'hier, sur ma page Facebook, enfin, sur mon profil Facebook, j'ai dit, bon, je suis un peu stressée, tout ça.
J'ai vu.
Et mes amis qui me
connaissent.
Rassuré,
moi aussi.
Oui. Et là, tu vois, tu as fait un truc qu'on fait avec les gens qui ont peur et qui n'est pas forcément efficace.
D'accord.
Tu veux que je t'explique pourquoi?
Oui, vas-y.
Évidemment.
Dis-moi.
Donc, moi, je sais comment j'ai préparé cette émission. Et j'ai une idée assez précise des risques potentiels.
Oui.
D'accord ?
Oui.
Quand toi, de l'extérieur, tu me dis, mais si, ça va bien se passer, pas de problème et tout ça. Moi, ça m'envoie le message, j'ai tort d'avoir peur. Et du coup, je me dis, mais non, il ne se rend pas compte parce qu'il y a ça,
parce
ça,
bon
ça, ça, j'ai pas préparé. Il y a ça, 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 où ça, je pourrais éventuellement planter. Et si on pose telle ou telle question, qu'est-ce qui va se passer ? Enfin, tu vois ? Et si personne ne pose des questions, qu'est-ce qu'on fait ? Tu vois ? Et donc...
Ça n'encourage pas finalement la personne. D'accord.
Parce qu'en plus, on lui envoie fondamentalement le message que la personne a tort d'avoir peur.
Oui.
Ce qui n'est pas très constructif.
Alors oui, parce qu'en fait, moi j'ai toujours réagi comme ça. C'est vrai, c'est une manière que j'ai de réagir avec les gens qui ont soit peur, soit qui doutent de quelque chose. Du coup, je leur dis, allez, c'est bon, maintenant, allez, on y va, on se lance. Comme par exemple... Alors, c'est un truc tout bête, hein. J'ai jamais pu comprendre. J'avais une personne qui avait un problème, pour moi c'était mental. C'était un, alors attends, on a souvent ce terme maintenant parce qu'il y a beaucoup de gens, ça touche beaucoup de personnes apparemment, c'est les personnes qui sont bipolaires.
Bipolaire,
voilà.
Ouais.
Et moi, j'arrive pas à comprendre ça. Je suis désolé, on a beau me l'expliquer, j'ai du mal à le comprendre. Alors, je me dis, c'est psychique, c'est dans la tête. Que tout se joue. Et il paraît que non, c'est physique, c'est voilà.
C'est les deux.
Pour moi, voilà, c'est un mélange des deux. D'accord, il y a du physique aussi, puisque automatiquement, s'il y a le mental, il y a le physique. Donc,
Nos comportements, enfin, la chimie de notre cerveau influence nos comportements, nos émotions et tout ça, et vice-versa.
D'accord, ouais.
Dans les modifications physiologiques, donc je parlais tout à l'heure, il y a l'abord psychiatrique de la bipolarité ou d'autres maladies comme la dépression, voilà. L'abord psychiatrique de ces difficultés-là, de ces problèmes-là, c'est de jouer sur la chimie du cerveau en pensant que ça va modifier les comportements, les façons de penser et tout ça. Mais on peut aussi, les neurosciences nous montrent aujourd'hui que si on change nos comportements, qu'on travaille sur nos façons de penser, nos façons de nous comporter, on change la chimie de notre cerveau. Donc on peut prendre par les deux bouts. Donc le traitement psychiatrique par médicament, il peut être utile pour dépasser des situations qui sont difficiles à un moment donné. C'est intéressant de le compléter par un abord psychothérapeutique comportemental qui va nous permettre de changer nos comportements.
Oui, parce que... Ah oui, vas-y, je te laisse terminer.
Non, c'était juste ça. Mais je reviens sur le « allez, ça va bien se passer », machin. Ce qu'on fait souvent quand on est dans la... quand on a quelqu'un qui est dans la peur, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que, par exemple, quand quelqu'un doute, n'a pas confiance en lui, donc il y a beaucoup de peur derrière tout ça, on a tendance à l'encourager, à le valoriser en disant « si, regarde, c'est super ce que t'as fait et tout, vas-y ». Ça... Je vais encore dire un truc qui va te faire tomber de ta chaise. Olivier.
Allez, vas-y.
Je suis désolée.
Je mets
la suspension. Tiens-toi bien. En fait, ça dégrade l'estime de soi.
D'accord.
Les gens, pour des gens qui doutent déjà.
Pour les gens qui doutent, oui.
Parce que eux, ils voient tout ce qui n'est pas à la hauteur de ce que eux ils voudraient faire. Et quand tu leur dis c'est super, ils ont l'impression, ils voient toute la différence entre leur évaluation à eux de ce qu'ils sont capables de faire et ce que toi tu penses. Et ça les focalise sur tout ce que eux ils pensent ne pas arriver à faire.
D'accord. Waouh.
Et du coup, ça dégrade leur confiance en eux. Il y a une étude qui est apparue il y a pas très longtemps, faudrait que je retrouve les coordonnées, je les ai pas là, les références, qui est super intéressante à ce sujet. Donc quand quelqu'un n'a pas confiance en lui, mieux vaut ne pas trop l'encourager au sens « vas-y, c'est bien, tu vas y arriver, il n'y a pas de problème », mais plutôt le valoriser en disant « tiens, il va se passer quoi, d'accord, et donc tu vas faire quoi pour que la personne elle-même… »
de parlementer, en gros, c'est ça.
C'est l'accompagner d'une façon différente, c'est-à-dire de dire « tiens, oui, ok, tu vas rater ton examen, et donc qu'est-ce qui va se passer alors si tu rates ton examen ?»
Oui, mais c'est pas souvent facile de faire ça.
Non, c'est pas facile, ça demande d'avoir un peu…
En plus, si tu le mets sur Facebook, je te dis pas, les gens ils vont se dire « mais qu'est-ce qu'il a, lui ? Pourquoi il embête ?»
Il vaut peut-être mieux pas le mettre sur Facebook.
Voilà, c'est clair,
mais c'est vrai que c'est mal vu. moi je l'ai déjà fait sur Facebook et je me suis pris des commentaires pas de la personne que à qui je posais ces questions,
d'autres personnes
qui disaient mais enfin c'est n'importe quoi, qu'est-ce que tu fais, t'es en train de renforcer son problème, tu vois, ce qui n'est pas vrai d'ailleurs. Donc tu vois, par rapport, et ça c'est vrai par rapport à la peur, on a souvent des enfants par exemple qui ont des peurs qui peuvent paraître irrationnelles. Par exemple, ils vont là cette saison on commence à aller dehors, j'avais écrit un article sur mon blog par rapport à ça, sur la peur des insectes. Les petits de 3 ans 4 ans ils ont peur, il y a des abeilles, il y a des mouches et tout ça, et on leur dit ah c'est pas la petite bête qui va manger la grosse.
Et ça rassure pas.
Eh ben non, parce que eux ils ont peur. Donc non seulement ça les rassure pas parce qu'ils se disent mais personne ne me comprend. Je vais te donner un exemple. Tu as très très envie d'un gâteau au chocolat. C'est pas de la peur, mais tu vas voir. T'as très très envie d'un gâteau au chocolat. T'aimes ça les gâteaux au chocolat?
Non.
Bon, qu'est-ce que t'aimes?
J'aime tout sauf les gâteaux au chocolat.
Mais dis-moi le truc que tu aimes.
Un tiramisu.
Voilà. Le tiramisu, voilà. Et imaginons qu'il y a un endroit où tu adores manger ce tiramisu, tu vois. Bien spécifique. Et puis pendant quelques temps, tu n'as pas pu y aller. Soit parce que tu étais au régime, soit parce que c'est loin de chez toi, tu vois, et tu t'es beaucoup retenu et tu as beaucoup pensé à ce tiramisu, tu vois, bien savoureux.
On l'imagine au maximum, de suite.
T'imagines bien.
Ah bah oui.
Et un jour, enfin, on planifie une sortie pour aller manger le tiramisu à cet endroit-là, tu vois. Donc tu l'as bien l'envie du tiramisu.
Mais à fond,
hein, à fond, hein.
Complètement.
Et quand tu arrives, donc tu y penses déjà depuis des semaines, quand tu arrives, on te dit ah non, désolé, aujourd'hui on n'en a pas.
Ouais, ça c'est terrible.
Hein? La haine. Hein.
Bon, oui, c'est la haine, puisque là, généralement, moi, je casse le restaurant, l'endroit.
Hein. Voilà. Réaction émotionnelle.
Je tue les gens. Je vais pas en prison, je passe par la case départ.
Mais imagine que la personne qui soit avec toi te dise, oh, mais Olivier, écoute, tu vas pas nous faire un fromage pour ton tiramisu.
Je tue également cette personne.
Voilà. Tu vois, parce que non seulement tu es frustré, mais en plus, tu as quelqu'un qui décidément ne comprend rien à rien.
C'est
encore pire. C'est encore plus énervant. Donc moi, j'utilise une image qui vient pas de moi, qui vient de Thomas Gordon dans un bouquin sur le management qui s'appelle Leader efficace. Il utilise l'image d'un ballon, comme un ballon de baudruche. Donc t'imagines à l'équilibre, c'est à peu près moitié intellect, moitié émotion. Se produit un événement qui fait monter ton émotion. Donc là, t'avais envie du gâteau et puis on te dit qu'il y en a pas. Ton émotion monte là, ta frustration, ta colère, tout ce que tu veux, ça monte. La question, c'est comment est-ce qu'on revient à l'équilibre. Et si on envoie un message rationnel en disant tu vas pas nous faire un fromage avec ton gâteau, qui est en gros bah écoute c'est pas très grave, ce qui au fond est vrai.
C'est pas grave.
Mais ça n'aide pas.
Oui.
Parce que c'est un message qui parle à l'intellect et qu'à ce moment-là, ton intellectuel, il est réduit à une toute petite portion et il est plus difficilement accessible.
On a l'impression de pas du tout être compris, quoi.
Voilà. Ouais. Par contre, c'est ton émotion qui parle là quand tu dis je suis pas compris. C'est ton émotion qui dit ouh.
Oui.
Par contre, si la personne, elle te dit « Ah bah ouais, c'est frustrant depuis le temps que t'attendais ça. Bon, qu'est-ce que tu préfères? Est-ce que tu crois qu'on revient la semaine prochaine ou tu prends un autre dessert quand même? Qu'est-ce qu'on fait ?»
Ça m'énerve quand même, moi, parce que je pense toujours à mon tiramisu, moi.
Parce que ta frustration de ne pas avoir le tiramisu, elle est là.
Pour moi, ça doit être vraiment présent. Je pense que c'est pour ça.
Mais ta frustration de ne pas avoir le tiramisu, elle est toujours là.
Moi, je dis allez, tais-toi, c'est bon.
Mais tu te sens un petit peu compris.
Oui, par contre, on comprend un peu mieux. Effectivement, c'est une très bonne, très bon exemple. Voilà.
Ça s'appelle l'écoute active.
Ouais.
C'est nommer l'émotion et la mettre en lien avec le contexte.
Ouais.
Tu vois, et montrer en quoi elle est justifiée dans cette situation. Quand un enfant a peur d'aller dehors, effectivement, il y a des insectes dehors, ça peut faire peur. Il y en a certains qui piquent, tu vois. Donc la peur, elle sert à te protéger.
Alors là, il y a deux situations différentes, parce qu'il y en a une, par exemple, où justement tu dis, pour les enfants, on va leur dire dans ce cas-là, ben oui, tu as peur, mais alors imagine si la grosse bête te mange, la petite bête te mange toi, une grosse bête.
C'est pas ça qu'on leur dit.
C'est pas trop bon.
C'est pas ça qu'on leur dit.
Et oui, mais alors, on a cette situation-là de tout à l'heure, là, qu'est-ce qu'on disait justement? On disait.
C'est pas la petite bête qui va manger la grosse.
Non, oui, mais c'était pas pour ça, c'était. Ça y est, hein. Non, mais tu vois, je retiens rien.
Il a perdu, il est troublé.
Tu parlais justement de toi, si tu dis, t'es pas trop sûr et tout ça, donc je vais te dire, oui, mais alors, c'est vrai, ça va être une catastrophe, qu'est-ce qui va se passer alors?
Oui, qu'est-ce qui va se passer?
Mais alors là, tu déclenches. Une autre émotion encore. Tu sais, moi, j'ai peur que ça aille trop loin, tu vois ce que je veux dire?
Ça, c'est la peur qu'on a, quand on n'a pas l'habitude de faire ça, c'est la peur qu'on a en général.
On n'est pas tous à même de réagir
comme ça. En réalité, je vais te raconter une situation très personnelle qui parlera certainement à beaucoup de mamans. Un jour, ma fille est descendue, il était 10h du soir, elle était couchée déjà depuis une heure, et puis elle est descendue, ils sont à l'étage, j'étais en train de regarder la télé, et elle pleurait à chaudes larmes, je lui dis mais qu'est-ce qui t'arrive? Et donc elle m'explique qu'elle a fait un cauchemar, et que dans son cauchemar, elle n'avait plus de papa ni de maman.
Oh d'accord, ah oui,
tu
ça,
vois,
c'est terrible.
C'est difficile.
Ah bah oui.
Et donc, la première réponse spontanée qu'on aurait envie de dire, mais non, mais enfin, ça n'arrivera pas. Oui. Sauf que elle sait que ça arrive.
Et oui.
D'autant plus que la semaine d'avant, on écoutait la radio dans la voiture, il y avait eu un très grave accident de voiture, ils expliquaient qu'il y avait un couple et, dans une voiture, d'accord, et qu'ils décédaient tous les deux. Donc, d'accord, il ne faut pas non plus sous-estimer les capacités des enfants et leurs compétences. Ils sont assez au clair, contrairement à ce qu'on croit, sur ce que c'est que la mort et sur le fait que ça arrive et ça n'arrive pas qu'aux personnes âgées. Donc ça, ils le savent. Et donc, je me suis dit, ça ne sert à rien d'essayer de la rassurer. Je lui dis, bah oui, effectivement, ça serait très très dur à vivre. Comment est-ce que tu imagines que ça se passerait si jamais on était morts tous les deux et tout ça? Donc, on a eu une longue discussion. Elle a pleuré au début. Eh ben, on a envisagé le fait qu'on puisse mourir tous les deux, mon mari et moi.
D'accord. Oui, mais alors ça, c'est hyper compliqué d'abord.
C'est pas facile.
Ah ouais, c'est clair. Ouais. C'est même pour toi, enfin, pour ton mari et toi, ça doit être très très difficile, quoi.
Bah, alors, il y a déjà, si je mets, moi, je me suis sentie assez à l'aise avec ça, mais si je m'étais pas sentie à l'aise, j'aurais
toi
pu...
et ton mari, parle-en.
Bah, je ne sais pas, faudrait lui poser la question, écoute. Mais on peut aussi demander à des personnes extérieures de le faire. Soit des amis en qui on a confiance, soit de la famille, soit éventuellement des intervenants extérieurs, des psychologues ou, tu vois, des accompagnants qui peuvent parler de ça avec les enfants, si on se sent pas de le faire. Mais en gros, tu vois, on est allé sur qu'est-ce qui va se passer. Ok, tu vas être très très triste, ça va être difficile. C'est vrai. Tu vois, tu vas beaucoup pleurer, c'est probable. Mais après, il va se passer quoi? Est-ce que tu... Et donc, elle savait pas, en fait. Elle savait pas.
Ça, pour moi, c'est compliqué, là, quand même.
Oui, mais
parce
bien
que,
sûr.
Du coup, après, peut-être, elle... Donc, sur le coup, elle sait pas. Ensuite, elle va peut-être être rassurée en se disant, oui, finalement, ce sera pas si grave que ça, même si je pourrais toujours penser à eux, enfin, des choses comme ça.
C'est ça.
Mais par contre, le problème, c'est que, finalement, ça va peut-être soit, d'une part... Au bout d'un moment, elle va se dire, enfin, quand elle sera toute seule, hein, je parle après, au bout de 3 jours, comme ça, elle va y penser, et elle va se dire, ben non, finalement, ça y est, ça revient, j'y repense, ça risque d'être compliqué à ce moment-là, elle risque de restresser à fond, ou alors, elle va totalement se désintéresser de vous deux.
Ben, ni l'un ni l'autre, tu vois.
Ça a pas fonctionné comme ça, c'était dans le bon sens, alors.
Elle se sent profondément rassurée par le fait qu'elle sait comment les choses vont se passer, c'est-à-dire que je lui ai expliqué qui allait s'occuper de elle et son frère, si jamais on venait à disparaître, donc voilà, elle sait.
D'accord. Oui,
il y a un excellent bouquin, j'adore, pour parler de la mort aux enfants, qui est écrit par une collègue à moi, qui s'appelle Emmanuel.
Pour moi, déjà.
Le titre va beaucoup t'interpeller. Oui. À quoi ça sert de vivre si on meurt à la fin?
D'accord. Oui.
Ça, c'est un chouette bouquin pour parler de la mort avec les enfants.
Ouais. Bon, bah, écoute, bah, voilà, on va le noter. Alors,
on le mettra dans Emmanuel Piquet.
Emmanuel Piquet.
Ouais, mais je le mettrai dans la bibliothèque à la fin.
D'accord.
Bref, on en était sur la peur, tu vois, on n'a pas beaucoup avancé sur les
émotions.
Oui,
c'est vrai qu'en plus, je coupe beaucoup, j'essaie de comprendre.
Mais oui, mais c'est chouette, parce que je pense que les gens qui nous écoutent aussi auraient peut-être envie de poser des questions et que tu les poses à leur place.
Voilà.
Donc, c'est ça qui est bien. Donc, par rapport à la peur, c'est vrai que souvent, on n'ose pas aller vers le pire, et c'est pourtant quand on va vers le pire qu'on contacte les ressources qui nous permettront de gérer.
D'accord.
Tu vois ?
Oui.
Donc ça vaut le coup. Alors si on est déjà dans un truc où on se place beaucoup sur le pire, peut-être qu'il faut tempérer ça aussi, mais ça demande à regarder chaque situation précisément.
Bah oui.
Ok ? Bon, on parle un petit peu des autres émotions ?
Bah oui, allons-y.
Parce que je vois qu'il y a des questions sur les émotions négatives, dérangeantes, mal reçues. Alors la colère, on va parler de la colère, tiens.
Alors justement, moi j'ai une question là-dessus d'un auditeur. D'une auditrice apparemment, Mélusine, qui nous demande, qui nous met « Bonjour, vous parlez beaucoup de la peur, mais comment gérer l'énervement qui précède souvent la colère ?»
Ouais,
alors,
c'est une bonne question.
C'est une grosse question, ça.
Big question.
Tu veux que je la répète, tu veux...
Non, c'est bon. La colère est une émotion qui est extrêmement mal vue. Et ça rejoint la question de Véronique qui dit comment se fait-il que les émotions négatives soient dérangeantes et mal reçues, exemple la colère d'un enfant, un adulte qui pleure et tout ça. La colère est généralement une émotion mal vue parce qu'on la confond avec la violence notamment.
D'accord.
Et on croit que la colère c'est la violence.
Tu vois ?
Et donc la violence c'est dérangeant. La colère, c'est, je crois que c'est l'émotion que je préfère.
D'accord. Voilà, alors ça va être compliqué. Ok.
Comment tu vois ça, la colère?
Tu le mets souvent en œuvre?
Ouais, très souvent.
D'accord, bon, ça va être super. Alors, la colère, oui, effectivement, je le vois aussi dans le, apparemment, le mauvais sens, puisque pour moi, oui, ça fait partie un petit peu de... la colère, il y a la frustration, pour moi.
La frustration, c'est un petit peu de colère et beaucoup de tristesse.
Ouais, c'est... Ouais, ah oui, d'accord, ouais. Oh là là, mais ça va être trop compliqué pour moi, ça. Il faut que je t'écoute, en fait. Vas-y.
Donc, la colère, tu vois, en général, quand on a peur que les gens se mettent en colère, quand on est gêné par les manifestations de colère, c'est plus qu'on est gêné par des manifestations de violence. Et ça, ouais. Moi aussi, ça me gêne, les manifestations de violence, parce que je pense pas que ce soit comme ça qu'on fait progresser les choses. La colère, pourquoi est-ce que je dis que c'est l'émotion que je préfère? Parce que c'est la seule qui nous amène à changer les choses quand elles ne nous conviennent pas.
D'accord, oui.
Il n'y a pas de révolution dans le monde qui ne s'est faite sans une colère à la base.
Oui.
Si l'abbé Pierre ne s'était pas mis en colère, il n'aurait pas créé Emmaüs.
Oui.
Tu vois ce que je veux dire? Si Gandhi ne s'était pas mis en colère, l'Inde ne serait pas indépendante.
Oui, oui, c'est... Oui, sauf que ça, c'est parce qu'il y a justement un gros blocage à ce moment-là, de l'autre côté, de l'autre partie.
Mais c'est vrai tout le temps. C'est-à-dire que la colère, c'est l'émotion qui dit « quelque chose ne me convient pas dans mon environnement ».
Oui.
Et donc, je
et
dois...
ça, c'est la colère.
Oui.
Ah ben alors, je la voyais pas du tout comme ça.
Et
tu
donc,
vois.
Je dois faire quelque chose pour que ça change. C'est ça, c'est une façon de se préserver soi dans son intégrité.
Mais alors,
tu vois
il y a une colère douce, une colère forte dans ce cas-là, non? Comment alors, ça marche?
Alors, la colère à la base, c'est ça. C'est ah, ça ne me convient pas tout à fait. Tu vois, qu'est-ce que ça pourrait être? Bah, on parlait tout à l'heure des chaussettes sales qui traînent. Ouais. Voilà. Là, il y a une saine colère au départ qui est bah non, ça ne me convient pas. Il faut que je fasse en sorte que ça change. Tu
d'accord.
vois. Le problème, c'est que la colère, ça fonctionne comme une carte de fidélité.
D'accord.
C'est-à-dire, j'essaye de faire en sorte que les choses changent, et ça ne marche pas. Donc, je coche une première case.
Oui.
Et puis, j'essaye à nouveau, et ça ne marche toujours pas. Donc, je coche une deuxième case, et ainsi de suite. Et quand ma carte est pleine, j'explose à hauteur de toutes les colères et les frustrations.
Donc, il y a un sacré cadeau, quoi, à la fin.
Souvent, ce que je raconte, c'est la chose suivante, c'est bon, tu te lèves le matin, il y a les chaussettes sales qui traînent par terre, le bac à douche n'a pas été nettoyé, tu vois déjà, t'as tamponné deux, trois, quatre cases. Tu vas prendre ton petit déjeuner, la personne qui a pris avant, imaginons que t'es des ados, ça, c'est les spécialistes pour ça, ils n'ont pas débarrassé la table, il y a des miettes, ça colle et tout, donc c'est super pénible.
Après, donc, tu vas aux toilettes, il y a de l'urine sur le rebord.
C'est ça, voilà.
C'est tout
la lunette n'est pas baissée.
Enfin, voilà,
totale,
exactement.
La totale. Après, imaginons que t'es des enfants petits, il faut leur courir après pour les habiller et tout, c'est juste l'horreur.
Pendant le temps que tu te brosses les dents, qu'il n'y a plus de dentifrice.
Voilà,
ta brosse à dents, tu la cherches.
Quelqu'un a oublié de remettre le papier dans les toilettes.
Enfin, voilà.
Tu vois, tu imagines.
Il y a tout le temps un bloc. Ouais, un
donc truc. tu coches. Et puis, t'arrives au boulot, ton chef te dit pas bonjour, ta collègue te fait une réflexion, donc tu coches. Tu vois, t'as des gens, juste tu les rencontres, bam, ils tamponnent des cases, parce qu'ils t'énervent comme ça. Rien que quand tu les vois, ça t'énerve.
Ouais.
Et puis, arrive le moment où un collègue passe et te dit, oh, je t'emprunte ton stylo, je te le rends tout de suite. Et là, lui, il se prend une avoinée monumentale, tu vois.
Ouais, c'est clair.
Et il se dit, qu'est-ce qu'elle a? Elle va pas bien, machin. Et donc, en fait, il a juste ramassé pour tous les autres avant.
Oui, c'est tout pris, en fait, ouais.
Les enfants, par exemple, sont des très bons déclencheurs de cartes de fidélité.
Oui.
Parce qu'ils font leur vie d'enfant.
Ouais.
Et donc, dans leur vie d'enfant, ils n'ont pas encore très bien assimilé que certaines choses se faisaient, ne se faisaient pas. Mais c'est juste parce d'accord. qu'ils découvrent le monde, tu vois. Et donc, et puis, comme ils sont plus faibles, on a tendance à se lâcher plus facilement sur eux. Que sur les adultes.
C'est pas faux, ça.
C'est plus facile d'envoyer paître son gosse ou de lui mettre une fessée que de dire à son chef qu'on a
pas
voilà, qu'on a
ça ou en tout cas plus pareil, je pense.
Ou en tout cas de lui dire je n'apprécie pas la façon dont vous parlez ou
ouais,
il y a trop de stress dans cette entreprise, tu vois.
Oui, parce qu'elle a peur après qu'il reprend le dessus.
Ben voilà. Et donc c'est ces comportements, c'est pas les émotions qui sont mal vues, ce sont les comportements qui y sont associés et qui sont parfois mal interprétés.
Oui, voilà, oui.
Tu vois. Là la question Véronique disait et un adulte qui pleure. Ça, généralement, ça nous fait peur, quoi, parce qu'on se dit ça y est, elle est en train de perdre le contrôle et tout ça.
Voilà,
et on n'aime pas penser qu'un être humain puisse perdre le contrôle.
Ben oui, mais on le sent faible, du coup.
Oui, on le sent faible et quelque part, ça nous fait peur à nous parce qu'on se dit si ça lui arrive à lui ou à elle, alors ça peut m'arriver à moi, tu vois. L'être humain a besoin d'avoir le sentiment d'avoir un minimum de contrôle sur la situation. Il y a une expérience intéressante qui a été menée par Glass et Singer, qui est, on prend deux groupes de personnes, on leur fait faire des exercices de maths, de français, tu vois, et on met un bruit très pénible en même temps qu'ils font ces exercices.
Ah oui, oui, j'ai déjà vu ça.
Et à un groupe de personnes, on leur donne, on leur dit, ben, il y a ce bruit, voilà, c'est comme ça, on peut pas faire autrement. Et à l'autre groupe de personnes, on dit, il y a ce bruit, mais vous avez un interrupteur, vous pouvez appuyer sur le bouton pour arrêter ce bruit à n'importe quel moment. Par contre, on aimerait bien que vous ne le fassiez pas, que vous fassiez les exercices avec le bruit parce que c'est l'objet de l'étude. Ce qui s'avère, c'est que le groupe qui a fait les exercices avec le bouton réussit mieux et perçoit le bruit comme moins gênant.
Et comment ça se fait?
Mais personne n'utilise le bouton parce qu'ils ont le sentiment d'avoir le contrôle.
D'accord.
Ils peuvent interrompre à tout moment. Ils ne le font pas, mais ils peuvent
les
le faire.
Les autres sont un peu dispersés partout, quoi.
Et les autres, ils ont ce truc et ils le subissent.
Oui.
et ils ne savent pas quoi en faire. D'accord. Et c'est très, du coup, c'est ça qui est pénible.
D'accord.
Et dans plein de situations, si on peut arriver à retrouver un peu le sentiment d'avoir un peu de contrôle sur la situation, c'est plus satisfaisant.
Ouais,
donc,
c'est mieux, ouais.
Quand on voit quelqu'un qui perd le contrôle, on n'aime pas ça en général.
Ouais, c'est clair. Donc, c'était là une bonne démo. Alors, est-ce qu'on peut... là, il te reste...
Pas longtemps.
Pas longtemps.
Donc, je vais pas pouvoir répondre à toutes les questions.
Alors, du coup, on va répondre à quelles questions, là ?
Alors, il y en a une qui m'intéresse, c'est comment faire pour lâcher du lest dans ces moments-là pour éviter que ça dégénère en pleurs et en cris inutiles. Voilà, je lis le début de la question. Mm-hmm. C'est Delphine qui dit... trop souvent, je me laisse emporter par mes émotions lorsque je suis fatiguée et je crie sur mes enfants pour des petits riens. Comment faire alors pour lâcher du lest dans ces moments-là pour éviter que ça dégénère en pleurs et en cris inutiles ? Ça, c'est une question extrêmement intéressante parce qu'on est tous confrontés à ça, qu'on ait des enfants ou pas. Donc, déjà, la première chose, c'est que la fatigue nous fait perdre un peu de contrôle. Mm-hmm. C'est-à-dire que quand on n'est pas fatigué, on va plus facilement pouvoir prendre du recul sur l'émotion, se sortir de la situation, dire... Hein. Quand on est fatigué, on a plus de mal. C'est pour ça aussi que les enfants vont plus facilement se rouler par terre quand ils sont fatigués. C'est pas parce qu'ils sont fatigués...
Nous, ça nous arrive rarement, je crois, dans la journée, à nous.
Ouais, mais on a quand même des comportements qui pourraient être similaires. On a un petit peu plus de contrôle, mais le mécanisme est là.
On n'a pas la même manière d'utiliser ça.
C'est ça. Voilà. On va râler, par exemple.
Ouais.
Très fort.
Et finalement, on vaudrait mieux se rouler par terre.
Bon, je ne sais pas, mais chacun son truc. Donc, la fatigue amplifie ce phénomène. Donc, ça vaut le coup aussi déjà de prendre du recul sur ça en se disant « Ok, là, je surréagis parce que je suis fatiguée. » Mais de ne pas oublier qu'à la base, il y a quand même une émotion, une colère, une frustration ou quelque chose qui peut déclencher ça.
D'accord.
Ça, c'est essentiellement un rôle... d'adulte, c'est-à-dire quand on est en relation avec des enfants, parce que là, ça a l'air d'être le cas, c'est pas un enfant qui va lâcher du lest. C'est pas l'enfant qui va arrêter de faire sa vie d'enfant. Ça, c'est juste pas possible d'imaginer qu'un enfant va faire ça.
D'accord, oui.
C'est donc aux parents de se dire, ouh là là, là, je suis en train de partir dans un truc qui va pas du tout. Je suis en train de crier, je suis en train de m'énerver. Peut-être même, j'ai envie de taper, voire je tape sur mon enfant. Ah, là, je suis peut-être en train de faire un truc qui est pas hyper constructif.
Ouais, bah oui.
Comment est-ce que je pourrais gérer cette situation d'une autre façon ? Donc, pour Delphine, il y a une question intéressante à se poser, c'est quelles sont les bonnes raisons que j'ai d'être dans cet état ?
D'accord.
Et de lister un petit peu ce qui nous a fait cocher des cases sur notre carte de fidélité. Ah oui, c'est passé
d'accord,
ça,
ouais,
c'est
ouais,
passé ça,
fait...
c'est passé ça, tu vois.
Oui.
Et ça permet déjà de prendre un peu de recul. J'avais aussi, j'ai accompagné aussi une personne comme ça qui avait des émotions extrêmement explosives, d'une manière générale, toutes émotions confondues, beaucoup la peur, mais aussi d'autres émotions. Et en fait, cette personne se disait tout le temps, je dois prendre du recul, je dois prendre du recul, je ne dois pas m'énerver, je ne dois pas m'énerver.
Sans arrêt sur la retenue, quoi.
Voilà, je dois me contrôler, en gros, tu vois. Ça répond aussi à la question d'Emmanuel sur cette société de la maîtrise. Donc, si on met la maîtrise dans « je dois contrôler et faire taire mes émotions », ce monsieur en arrivait, plus il se contrôlait, plus ça faisait monter un peu, tu vois, la cocotte minute, là, et voilà, du coup, c'était très explosif, la façon dont il l'exprimait. Je lui ai simplement demandé de faire un carnet d'observation, disant « notez toutes les situations qui génèrent chez vous une émotion et notez à quel niveau elle est ». Et donc, il est revenu en disant « effectivement, ce carnet, ça m'a été super utile parce que je me suis rendu compte que j'avais de bonnes raisons de ressentir ce que je ressentais et ça m'a permis de prendre beaucoup de recul et du coup, il a un fonctionnement qui est beaucoup moins explosif. »
Ça, c'est pas mal. Ça peut être utilisé pour beaucoup de personnes, ça.
Exactement.
Ouais.
Ça peut être déjà dans un premier temps pour identifier. Mm-hmm. Plutôt que se dire non, j'ai tort, je devrais pas ou je dois me contrôler, ça peut être pour identifier. Après, j'attire aussi votre attention, c'est que sur le fait que... alors, je dis votre attention parce qu'il y a les gens qui nous écoutent, mais il y a toi aussi, Olivier. Sur le fait que prendre soin de soi, et on va peut-être parler un peu du plaisir... prendre soin de soi, c'est quand même primordial. Savoir s'écouter...
Oui.
Un petit peu, pas trop non plus, mais savoir s'écouter et se reconnaître de bonnes raisons, de se poser, de prendre du temps pour soi, de se reconnecter avec ce qui nous fait vraiment plaisir. Christelle Petit-Collin, dans son bouquin que j'ai mis aussi dans la biblio, qui s'appelle Le guide des émotions, je ne sais plus.
Oui.
Je ne sais plus le titre, mais je vais le retrouver. Il sera dans la biblio de toute façon. Elle donne une métaphore qui est assez jolie. Elle dit, donc, la colère, c'est comme si on était une voiture. La colère, c'est l'accélérateur.
D'accord.
La peur, c'est le frein. Et le plaisir, c'est l'essence qu'on met dans le moteur.
D'accord.
C'est ça qui nous fait avancer. Quand on n'a plus de plaisir, on n'avance plus.
D'accord. Là, faut mettre l'embrayage.
Oui, à ton avis, à quelle émotion correspond l'embrayage ?
Ben, à mon avis, l'embrayage, du coup, je sais pas. J'essaye de chercher, j'y arrive pas.
À la tristesse.
À la tristesse. D'accord.
Et à quoi ça sert un embrayage pour ceux qui ne font pas de mécanique, Olivier ?
Alors, à quoi ça sert à passer les vitesses ?
À changer de vitesse.
Voilà.
Donc, la tristesse, c'est exactement ça. C'est d'accord. le moment où on lâche l'ancienne vitesse et c'est ce qui nous permet d'aller sur la nouvelle vitesse.
D'accord.
Tu vois ? Et donc, la tristesse, c'est renoncer. Tout à l'heure, tu parlais de frustration.
Oui, ben oui.
Quand un enfant fait une crise parce qu'on lui refuse quelque chose, on a tendance à voir dans le fait qu'il se roule par terre le fait qu'il est en colère. En réalité, ce que je te disais tout à l'heure, il y a une grande part de tristesse là-dedans. Et quand on leur formule la tristesse en disant « bah oui, t'es triste, t'aurais bien voulu avoir ce truc-là ou t'avais vraiment très envie de ce truc-là », c'est beaucoup plus efficace que de leur dire « bah oui, t'es en colère, dis donc ».
Oui, c'est vrai qu'on lui dit jamais, mais d'un côté, on lui dit pas « t'es en colère ». Ça, on lui dit rarement, c'est plutôt
ça dépend en qui. Mais...
Oui, ça dépend, et en même temps...
en général, on lui dit quoi ? On lui dit « arrête ton cirque ».
Oui, voilà.
Ça, ça marche pas.
C'est plutôt ça, ouais. Ouais, c'est clair.
ça marche pas avec moi. Ça marche pas super bien. Et
Tu
vois, cette part de tristesse, et reconnaître qu'on a de la tristesse, c'est ce qui permet de se dire « ok, ça c'était bien, ça m'a intéressé, ça m'a apporté du plaisir, ça c'est terminé, il va falloir que je renonce au plaisir que ça engendrait pour aller vers autre chose. »
Vers autre chose, ouais, non, je comprends.
Dans quoi j'anticipe peut-être du plaisir, mais qui reste encore hypothétique, parce que tant que j'y suis je ne sais pas. Donc c'est une phase qui est un peu difficile, tu vois, entre les deux, là.
C'est compliqué quand même.
Entre les deux, ouais.
Ok. Eh ben très bien. Ah oui, c'est
bah, écoute, alors, il est déjà 10h, je sais pas combien, 49.
Il est 10h48 minutes et 49 dans maintenant. voilà. dans maintenant.
Donc j'étais en train de regarder s'il y avait des questions sur lesquelles je pouvais répondre.
Alors on a la question de tout à l'heure, je sais pas si tu as pu la noter, on pourra peut-être y répondre la prochaine fois peut-être, non, pour
Alors rappelle-moi la question.
Ben alors c'était pas mal, c'était très intéressant. C'est Mélusine qui nous demande vous parlez beaucoup de la peur, mais comment gérer l'énervement qui précède souvent la colère ?
Oui, alors quand il y a l'énervement qui précède la colère, c'est qu'on est en train de prendre sur soi et d'essayer de se maîtriser.
Donc, on y répond tout de suite.
Donc, dès qu'on commence à sentir le premier signe d'énervement, on se dit « Ah, qu'est-ce qui ne me convient pas dans cette situation ? Qu'est-ce que je suis en train d'essayer de faire ? Quel changement est-ce que j'essaye de provoquer ?»
Ah oui,
tu vois ?
Mais oui.
Et est-ce que je m'y prends d'une façon efficace ou pas ? Parce que si on attend trop,
on
est trop dans l'émotionnel, et du coup, là... on a des comportements irrationnels, violents, et qui ne sont pas efficaces.
Et qui sont à la fin, finalement, pas bons pour nous.
Voilà, souvent,
ni pour les autres.
Les gens me disent « Oui, mais alors je répète 5 fois et il ne se passe rien. » J'ai dit « Ok, si vous répétez 5 fois, alors ne répétez que 2 fois et à la 3e fois, passez à l'action. »
Oui, voilà, oui.
C'est-à-dire, faites quelque chose pour sortir de cette situation. On peut soi-même sortir de la situation. Alors, si on a des enfants petits, on les met en sécurité.
Alors,
tu vois,
c'est vrai qu'on fait souvent ça avec les enfants, d'ailleurs. On leur dit, allez, je te le dis 1 fois, 2 fois, 3 fois, mais ça, c'est dans le sens contraire. C'est dans le sens où finalement, on les frustre encore plus. Et puis, au bout d'un moment, ils sont tellement frustrés que nous, on est embêtés parce que ça ne convient pas.
C'est ça.
Et du coup, on les bloque encore plus en leur disant, bah, c'est terminé, je t'enlève ça.
C'est
voilà,
ça.
C'est ça. Et c'est pas bon du tout, quoi, finalement.
Bah, je sais pas si c'est
pas bon.
Ça
dépend des situations, voilà, évidemment.
Je sais pas si c'est pas bon. C'est vrai que c'est pas forcément la façon la plus efficace.
S'il prend le couteau dans la main et qu'on lui dit 3 fois et à la fin, bah, je t'enlève le couteau. Bon, faut faire attention en lui enlevant le couteau.
Dans ce cas-là, c'est approprié. C'est parce qu'on anticipe qu'il peut se mettre en danger.
C'est pour ça que là, c'est une bonne situation.
Mais nous-mêmes, quand on sent qu'on va devenir violent verbalement ou physiquement, ça vaut le coup de se dire « Oh là, il y a peut-être un truc que je ne fais pas efficacement. » Parce que quand j'ai envie d'être violent, en général, quand j'ai envie d'insulter quelqu'un, quand j'ai envie de lui taper dessus, ça m'arrive, comme à tout le monde, c'est parce que je me sens impuissante à faire changer les choses de la façon dont je m'y prends. Donc peut-être ça vaut le coup, de sortir de l'émotionnel et d'aller sur quelque chose de plus intellectuel en disant « Mais ok, je m'y prends peut-être pas de la bonne façon. »
C'est peut-être pas la bonne manière. Voilà.
Tu vois ?
Eh ben oui. Bon, bah écoute, merci.
Voilà.
Si vous voulez continuer à nous poser vos questions pour la prochaine émission, qui sera donc
dans un mois, le 25 mai, je crois.
Voilà, comme vous le savez, c'est précisé sur ta page, d'ailleurs, Sandrine.
Je vais vous le dire tout de suite.
Il y a... alors, je crois qu'on n'a pas encore mis la date, mais on va la mettre juste après l'émission, on mettra la date.
Et puis
Et vous aurez aussi plein de petites infos, des petits schémas encore, ou des petits schémas ou des petites photos aussi.
Des schémas,
la biblio
et tout. La biblio
aussi.
Je suis en train de chercher la date. Le 26 mai, lundi 26 mai.
Voilà, lundi 26 mai. Très bien.
Alors, ce qu'on aimerait pour la prochaine émission, alors peut-être que vous avez encore des questions, mais on va pas avoir trop le temps d'y répondre là maintenant, mais ce qu'on aimerait pour la prochaine émission, c'est deux choses. Enfin, moi, ce que j'aimerais, moi, en tout cas, je sais pas
oublier aussi,
ce que
j'aime.
Voilà, ce que j'aimerais, moi, pour la prochaine émission, ça serait deux choses. D'une part, vos réactions par rapport à l'émission d'aujourd'hui, parce qu'il y en a peut-être qui vont l'écouter en replay, voilà, et qui auront des réactions dont ils pourront pas nous faire part sur le moment. Donc, ça vaut le coup de nous les envoyer, parce que à la prochaine émission, on prendra un temps, en début, pour répondre, justement, à ces questions-là. Peut-être que, moi, il y a des questions, là, peut-être que je prendrai du temps pour répondre un tout petit peu plus précisément, en complément de ce que j'ai dit aujourd'hui, par rapport aux questions qui ont été posées aujourd'hui. Donc ça, c'est une chose.
Et tout ça, ce sera avant d'aborder le thème de l'émission question.
Et on abordera ensuite le thème de la prochaine émission, qui n'est pas encore défini. Et là, on a besoin aussi de vous, chers auditeurs.
Vos questions, ça pourrait nous donner des idées, te donner des idées, Sandrine.
Exactement. Donc on mettra un sondage, soit sur la page Facebook, soit sur le site de la radio.
Je pense même sur le site de la radio, ce sera très bien.
On vous fera 2-3 propositions. Et puis, vous pourrez, vous aussi, du coup, nous faire part de vos suggestions, de vos envies, comme je disais tout à l'heure au début. Peut-être qu'il y a des invités que vous aimeriez avoir. On essaiera peut-être d'avoir des témoignages ou des choses comme ça, ce qui pourrait être super intéressant. Même ici en direct, si vous voulez venir nous parler d'une situation qui vous intéresse en rapport avec le thème, vous venez quand vous voulez.
En tant qu'invité, comme ça.
Vous êtes bienvenue chez nous, entre nous.
Merci. Alors, on va parler un petit peu de la bibliothèque.
Alors, la bibliothèque, allons-y. Oui, parce que alors d'abord il y a des ressources internet. Alors il y a deux sites. J'en ai pas mis tellement plus parce que je pense qu'ils sont pas mal. Alors je tourne les pages. Donc si vous entendez du bruit, c'est normal.
C'est normal. C'est
tout
normal.
Va bien,
on est humain.
Où est-elle ma biblio? Tchouk. Alors j'ai dit que je parlais des sites. Le premier site dont je voulais parler, c'est un site qui s'appelle Redpsy. REDPSY.
D'accord.
C'est un site québécois, alors je ne dis pas canadien, parce que je sais que les Québécois sont à cheval sur ces choses-là. Donc c'est un site québécois qui est très axé sur les émotions. Il y a énormément de détails sur tous les types d'émotions, il y a beaucoup de vocabulaire émotionnel et de choses comme ça, c'est vraiment super intéressant. C'est un petit peu complexe à naviguer, mais c'est vraiment très très riche en informations, donc je vous invite à aller le visiter. Il y a un autre site qui s'appelle TPE Émotions. Donc là, je vous mettrai aussi l'adresse sur la page Facebook de la radio. C'est un site qui est super clair, qui explique assez bien la partie physiologique des émotions, le fonctionnement du cerveau, le thalamus, le système limbique, enfin les choses dont je n'ai pas parlé ici, mais qui sont super intéressantes. Par contre, alors moi j'ai trouvé juste que le site était un petit peu mal organisé, donc on galère parfois pour arriver à faire des liens et à retrouver les trucs. Mais il est quand même très très bien fait. Il y a plein de ressources aussi internet, par exemple pour les enfants qui ont du mal à verbaliser leurs émotions et tout ça, où on trouve des petits pictogrammes pour leur montrer, tu vois, les émotions. Tiens,
c'est super ça. Comme qu'on appelle ça les émoticônes.
Ça leur permet de mieux visualiser, tu vois, les émotions et de leur apprendre à verbaliser ça. Alors, après, la biblio. Donc, le titre que j'avais perdu tout à l'heure, c'était « Émotion, mode d'emploi » de Christelle Petit-Collin.
Ok.
Donc, c'est aux éditions Jouvent. C'est un tout petit livre qui coûte pas cher du tout. Il doit être 4,90 euros, autour de 5 euros.
Ça vaut le coup de le prendre.
Ouais, et il est vraiment très, très bien fait. Il explique bien le fonctionnement émotionnel, il parle un peu des différentes émotions. Enfin, vous retrouverez beaucoup de choses que j'ai dites aujourd'hui dans ce bouquin-là.
D'accord.
Donc, si vous voulez commencer par un, je vous invite à prendre celui-là.
D'accord.
Il y en a un autre qui est intéressant, c'est « Peur, colère et tristesse » de Stéphanie Ahusseau, aux éditions Odile Jacob. Il y a « Imparfait, libre et heureux » de Christophe André, aux éditions Odile Jacob aussi, qui est très intéressant. C'est un gros bouquin, ça, mais il y a beaucoup de choses intéressantes. Et après, il y a des livres peut-être un petit peu plus techniques. Il y a « La puissance des émotions » de Michel Larivet, aux éditions de l'Homme. Donc ça, c'est encore une Québécoise qui a écrit ça.
D'accord.
Pareil, elle rentre dans le détail un peu toutes les émotions, c'est super bien. Et il y a deux livres qui sont très techniques, mais qui sont super intéressants. C'est « Le partage social des émotions » de Rimé et « Émotions et psychothérapie » de Philippot. Donc ça, ce sont des Belges qui travaillent à l'Université catholique de Louvain-la-Neuve et qui font des travaux super intéressants sur les émotions.
D'accord.
Le partage social des émotions, par exemple... explique pourquoi est-ce qu'on parle de nos expériences émotionnelles avec les autres et tout. C'est une espèce d'enrichissement de l'expérience collective, mais ça ne sert pas forcément aux gens sur le moment. Et émotion et psychothérapie, il dénonce un mythe, entre autres, il dit des choses super intéressantes d'une manière générale, mais il dénonce un mythe dont je n'ai pas parlé encore, qui est le mythe de la vidange émotionnelle. Parce qu'on croit que parler de son émotion, ça vide le réservoir et c'est bon, le problème est réglé. Et ça, ce n'est pas vrai du tout.
Ah bon?
Parfois, c'est adapté d'en parler et ça aide, ça fait du bien. Mm-hmm. Souvent, ça soulage sur le moment, mais sur le long terme, ça suffit pas à changer les choses.
Ah oui, ça changera pas effectivement
voilà.
les choses. Oui.
Et je peux même te dire que dans certains cas, par exemple dans la dépression, trop parler de son émotion, du fait qu'on n'est pas bien et tout ça, peut engendrer l'inverse, l'effet inverse, c'est-à-dire que ça renvoie l'image qu'on n'est pas bien, ça renforce le problème.
Voilà.
Et souvent, l'environnement, enfin l'entourage répond en disant oh, allez, ça va aller, vas-y, fais des trucs et tout, ce qu'on n'arrive justement pas à faire quand on déprime, et ce qui rend les choses encore pires. Donc, parler de ses émotions, ça peut aider, mais c'est pas forcément efficace.
C'est pas la meilleure solution.
Voilà.
D'accord.
Voilà.
Okay. Très bien.
Bon, bah écoute, je crois que...
C'est bon ?
J'ai pas dit tout ce que j'avais à dire, mais j'ai plus le temps maintenant.
Oh, mais c'est pas grave, t'inquiète pas. Si tu veux, si t'as encore une ou deux infos, il y a pas de problème. Vas-y.
Bah écoute, je suis en train de regarder sur qu'est-ce que je pourrais dire de
super
important.
On a pas d'infos à 11h, c'était à 10h, donc il y a pas de souci.
Ouais,
t'inquiète
cool.
pas.
On va déborder.
On déborde un peu.
On a peur, on en a parlé. On n'a pas trop... Si, la tristesse, j'aimerais bien en parler par rapport à la pensée positive et par rapport au lâcher prise. C'est des articles que j'ai écrits sur le blog il y a quelques temps et... C'est des trucs, on entend tout le temps en ce moment, il faut lâcher prise, lâcher prise, voilà. On entend tout le temps pensée positive. Moi, ça me gêne un peu parce que ça peut être contre-productif. Quand la pensée positive est utilisée pour chasser ses émotions désagréables, on a vu tout à l'heure que c'était pas très efficace et c'était pas très aidant parce qu'on est en train de nier une partie de nous-mêmes et du coup, on passe à côté du problème et de ce qui pourrait nous aider à le résoudre. Donc ça, c'est pour la pensée positive.
D'accord.
Le lâcher prise. Quand on dit, ouais, il faut lâcher prise, il suffit de lâcher prise. Très bien. Si les gens savaient le faire, si c'était aussi facile que ça, ils l'auraient fait depuis longtemps.
Oui, c'est clair.
En général, quand on n'arrive pas à lâcher prise, si on se dit « je dois lâcher prise », si on n'y arrive pas, c'est qu'on anticipe des risques.
Oui, c'est qu'il y a... Oui, je comprends.
Et donc, on a de bonnes raisons de ne pas le faire.
D'accord.
Et on ne pourra lâcher prise que le jour où on aura envisagé ces risques et on se sentira prêt à les affronter.
Oui, parce que le lâcher prise est très important, justement. Donc, c'est vrai que c'est...
Oui. Mais lâcher prise pour lâcher prise, on peut se mettre en danger
en faisant ça. C'est
donc,
clair. Parce que du coup, on oublie complètement tout le reste. Quoi.
Ben,
tout ce qui est très important. Quoi.
On oublie les risques.
Ben les risques.
Donc intéressez-vous d'abord aux risques avant de changer quoi que ce soit.
Et
parce
puis
que...
ça aide, c'est vrai, ça aide de faire ça. Ça, plus facile, même, ça va être plus facile même sur le coup et même donc apparemment sur le long terme.
Ben oui.
T'as raison,
ben
c'est
oui.
très bien.
Je sais pas si j'ai raison, mais en tout cas,
si,
c'est comme ça que je vois les choses.
T'as raison, moi aussi je vois pareil, c'est bon, on a raison tous les deux.
Bon, voilà, j'espère que vous n'êtes pas trop déçus que j'ai pas répondu à toutes les questions en détail. Il y avait des questions pas mal sur la bagarre et les jalousies entre frères auxquelles je n'ai pas répondu.
Bon, pour arriver à répondre
l'enfant qui tape. Donc, ce qui serait intéressant, c'est qu'on ait un peu le détail aussi des situations. C'est-à-dire, l'enfant qui tape, généralement, alors parfois ça arrive quand ils sont petits qu'ils tapent comme ça, sans raison apparente. Souvent, quand même, il y a une situation qui a déclenché.
D'accord.
Et l'enfant ne pourra arrêter de taper qu'au moment où il saura comment gérer autrement l'émotion qui a suscité le fait qu'il tape. Donc
d'accord.
Voilà. Bon, je crois qu'on va s'arrêter là.
C'est toi qui vois, il n'y a aucun problème.
Je suis super triste en fait.
Ah bon, t'es super triste?
Parce que c'est fini?
Mais non, mais c'est bien, c'est le commencement de la prochaine émission.
C'est ça.
Tu vois?
Bon.
Alors pourquoi c'est fini? Qu'est-ce qui va te gêner quand ce sera fini?
Ce qu'il y a, c'est que je dois prendre le TGV pour Paris là, tout à l'heure.
Alors là, ça blogue. Et là, je te comprends par contre, tu vois.
Merci à tous, en tout cas.
Sandrine. Et on se retrouve pour la prochaine, donc le
26 mai
à 9h jusqu'à 11h, comme tous les derniers lundis du mois, dorénavant, sur Bugey Radio. Merci beaucoup.
Merci Olivier.
À bientôt.
Salut.
Allez, on va retourner à la musique, il est 11h, nous sommes toujours le lundi 28 avril 2014. Profitez bien de la musique, c'est Zazie et Eros Ramazzotti tout de suite sur Bugey Radio.
Bugey Radio, info, musique, culture. Tous les jours en direct, Bugey Radio.